Nous ouvrons maintenant la séance et nous allons procéder à l'appel nominal des conseillers. Laurence Abena. Là. Jean Enzi.
Présent.
Michel Arnoux. Présent. Odile Arnoux.
Présente.
Dolores Barouin. Donc absente. Et pouvoir à Monsieur Jean-Jacques Cournil. C'est bien ça? Michel Biez.
Oui.
Laurent Baumler.
Présent.
René Brouillard.
Présent.
Annie Carpentier.
Présent.
Evelyne Kérol.
Présente.
Marie-Claude.
C'est le pouvoir. C'est le petit pouvoir à René.
Marie-Claude, donc absente, pouvoir à René Brouillard. Dominique Coulet.
Présente.
Jean-Jacques Cournil.
Présent.
Fagot Edwige, absente. Patrick Fleury.
Présent.
Stéphanie Fourdrin.
Présent.
Nicolas Galzinski, absent, pouvoir à Odile Arnoux. Lisiane Grosbon. Absente, pouvoir à Patrick Fleury. Christophe Lamy.
Oui.
Lemercier Jean-Claude, absent. Marie-France Merlin.
Présente.
Présente. Francis Panier.
Présent.
Philippe Rabé, absent. Cécile Raguido.
Présente.
Présente. Ferroudja Raoui.
Présente.
Présente. Patrick Sauvage. Absent. Patrick Stéphane.
Présent.
Présent. Donc, il y a donc... ...19 conseillers présents. Pour que la séance, le quorum soit atteint, il faut que nous soyons au moins 14. La séance sera donc valide. Bien, secrétaire de séance. Evelyne Kérol se propose comme secrétaire de séance. Qui est opposée? Qui s'abstient? Evelyne Kérol, secrétaire de séance, à l'unanimité. Donc les pouvoirs reçus, je les ai déjà, ça fait un peu doublon, mais bon. Marie-Claude, donc à René Brouillard. Lisiane Grosbon à Patrick Fleury. Nicolas Galzinski à Odile Arnoux. Dolores Barouin à Jean-Jacques Cournil. Voilà. Arrivée de Monsieur Jean-Claude Lemercier.
Excusez-moi pour le retard.
Bien, l'ordre du jour. Donc après l'élection du secrétaire de séance auquel nous venons de procéder, il y aura l'approbation du procès-verbal des délibérations du Conseil municipal du 14 avril 2016, la lecture des décisions du maire numéro 2 et numéro 3 de 2016, les décisions de la lecture des décisions de droit de préemption urbain, ensuite, premier véritable point, si j'ose dire, de l'ordre du jour, arrêté de projet de périmètre portant fusion de la communauté de communes de la Basse-Autonne et de l'agglomération de la région de Compiègne. Ensuite, indemnité de fonction des élus locaux. Vie associative et aide financière pour les jeunes de moins de 18 ans. Nouvelles activités périscolaires. titre irrécouvrable, admission en non-valeur, annulation de titre sur exercice antérieur, tarif de location des salles communales, tarif des concessions au cimetière, régime indemnitaire du grade d'adjoint technique de première classe, dénomination de voie, pardon, et les questions diverses avant d'aborder certains points d'information. Bien, donc premier point de l'ordre du jour portant sur le compte-rendu du conseil, le procès-verbal du conseil municipal d'avril 2016. Remarques, commentaires. Bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc le procès-verbal des délibérations du conseil municipal du 14 avril 2016 est approuvé à l'unanimité. Point suivant de l'ordre du jour, donc les décisions numéro 2 et numéro 3. Je peux me passer le sujet là. Merci. Donc, décision numéro 2, 2016. Monsieur Michel Arnoux, maire de Verberie, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération du Conseil municipal du 25 avril 2014 relative aux délégations accordées aux maires, décide de signer ce jour le marché de fourniture relatif à l'achat d'un camion Renault Truck Maxity 140.356 CCL2. Bon, j'espère que ça parle à tout le monde.
Oui, oui, tout à fait.
Ah.
C'est moins fréquent que Peugeot 207, mais bon. Avec l'entreprise Guillumette. C'est Renault Véhicule Industriel, en fait. Rue du Président Roosevelt. BP2 6750, choisi au bac, pour un montant de 45 833,80 euros hors taxes, 55 000 euros et 56 centimes, pardon, toutes taxes comprises, qui a été passée selon la procédure adaptée. Il s'agit de la discussion que nous avions eue lors du budget au sujet du remplacement d'un des deux camions. Et ici, c'est le camion avec grue qui fait l'objet de cette commande. Je rappelle que le camion qui supporte actuellement la grue est tombée en panne et manifestement les réparations sont particulièrement onéreuses. Donc on avait une grue en panne avec des réparations onéreuses sur un camion qui n'était pas trop usagé. On a un camion très usagé, donc on démonte la grue, le camion qui n'est pas très usagé remplace le camion très usagé. Et le camion grue prend la place qui était celui du camion grue où la grue est tombée en panne. C'est clair pour tout le monde? En fait, c'est un jeu de chaises musicales.
Voilà.
Entre les camions. J'ai l'impression que c'était pas très clair si j'ai posé la question.
Tout ce qui était pas terrible a été mis ensemble.
Voilà.
Pas tout à fait.
Vous êtes deux vieux, on fait un neuf.
Voilà, c'est ce qu'on appelle de l'économie circulaire.
C'est glissant. Voilà. Bon.
La grue.
Ah oui, la grue, je sais, j'en ai une de grue. Je sais ce que ça coûte. Je sais ce que ça coûte, une grue.
Décision numéro 3, 2016. Monsieur Michel Arnoux, maire de Verberie, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération du Conseil municipal du 25 avril 2014 relative aux délégations accordées aux maires, décide de signer ce jour le marché de travaux relatif à la création d'un bâtardeau et d'un muret de rétention le long de l'Oise, avec l'entreprise Rivolta BTP, qui est route de Compiègne à Verberie, pour un montant de 48 996,69 euros, soit 58 796,03 euros TTC, passé selon la procédure adaptée. Je vais essayer d'être plus clair là. Donc il s'agit en fait de terminer la digue qui va de la rue René-Firmin à la station de captage, rue de l'Oise, parce qu'en fait, cette digue n'est pas terminée, et au niveau du port, c'est comme si... Enfin voilà, c'est ce qui fait que la digue n'est pas terminée, et en cas d'inondation, bah, ça rentre par là. Donc là, ce mur, qui a été calculé évidemment pour ça, va compléter la digue, protégeant les habitations de la même hauteur d'eau que le reste de la digue. Donc elle s'arrête à peu près au niveau du pont.
D'accord.
Voilà. pour ce sujet. C'est clair ? Et il y a un bâtardeau qui va être mis en place pour permettre l'accès, effectivement, au-delà du mur. C'est un sujet qui a été débattu en commission travaux.
Oui, oui.
D'ailleurs. Voilà, des questions sur ces deux points ? Très bien. Ensuite, décision de droit de préemption urbain. Nous n'avons pas exercé notre droit de préemption. Il y a eu, depuis le dernier conseil municipal, 5 demandes. Donc, Monsieur Perchon, Madame Le Sueur, 28 rue de Paris. Monsieur et Madame Pellegrin Sylvain, 14 bis rue des Remparts. Monsieur Da Silva Kevin, 2 rue de Saint-Yne. Monsieur et Madame Kélins Christian, 7 rue de La Roche. Monsieur Zalk Vincent, 1 rue Alexis Carrel. Voilà. Point suivant de l'ordre du jour, donc arrêté de projet de périmètre portant fusion de la communauté de communes de la Basse-Autonne et de l'agglomération de la région de Compiègne. Alors, je rappelle que dans ce processus, il y avait eu un projet de schéma départemental de coopération intercommunale dans lequel nous avions deux points à valider. Le premier point portait sur la fusion de la communauté de communes et de la communauté d'agglomération, et le deuxième point portait sur la fusion des syndicats d'énergie SE60, CZO et Force Énergie. Donc nous avions émis un avis favorable sur ces deux sujets en date du 10 décembre 2015. Depuis, le schéma départemental de coopération intercommunale a été arrêté le 24 mars 2016, après prise en compte des amendements adoptés par la commission départementale de coopération intercommunale, qui prévoit dans sa prescription numéro 3 la fusion de la communauté de communes de la Basse-Autonne et de l'agglomération de la région de Compiègne-Arc. En vue de la mise en œuvre de ce projet au 1er janvier 2017 et en application du grand 3 de l'article 37 de la loi portant nouvelle organisation territoriale, loi NOTRe, du 7 août 2015, un arrêté préfectoral de projet de périmètre de fusion de la CCBA et de l'Arc a été pris le 18 avril 2016. Donc quand on se réfère au calendrier qui avait été fourni, en fait, ils avaient jusqu'au 15 juin pour fournir cet arrêté de projet de périmètre. Donc nous, on a reçu cette affaire-là, je l'ai là, on l'a reçu l'arrêté le 22 avril 2016 et on a 75 jours pour nous prononcer. Voilà, ce projet de périmètre est soumis à l'avis des conseils communautaires de la CCBA et de l'ARC, ainsi qu'à l'avis des conseils municipaux des communes membres qui disposent d'un délai de 75 jours, ce que je viens de dire. Donc on avait approuvé à l'unanimité le projet de schéma départemental, du moins pour ce qui concerne la fusion de la communauté de communes de la Basse-Autonne et de l'ARC. Aujourd'hui, on nous propose un projet d'arrêté de périmètre. Donc je rappelle que l'arrêté de périmètre en lui-même, qui sera pris avant le 31 décembre 2016, pour application au 1er janvier 2017, c'est en fait l'arrêté qui crée réellement la nouvelle intercommunalité. Voilà, issue des deux. Donc là, c'est le projet. Dans le projet, dans cet arrêté, comme vous avez pu le voir, on y trouve les 22 communes, c'est-à-dire 16 qui font partie actuellement de l'agglomération de la région de Compiègne, et 6 qui appartiennent à la communauté de communes de la Basse-Autonne. Donc, moi, sur ce point-là, on est quand même dans une certaine cohérence. Je vous propose donc d'émettre un avis favorable à ce projet d'arrêté de périmètre. Alors après le vote, pour ceux qui me poseraient des questions maintenant, je ferai un petit point de situation sur ce qui est un peu avancé sur la fusion. On vous explique un peu où on en est. Et puis j'évoquerai l'histoire de la fusion des syndicats d'énergie. Voilà, je vous propose d'abord de nous intéresser à ce vote sur l'arrêté de projet de périmètre. Et avant de voter, évidemment, qui a des questions, commentaires? Très bien, je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc le projet d'arrêté, notre avis est donc favorable pour ce projet d'arrêté de périmètre qui a été proposé par le préfet. Alors derrière ça, pour apporter des éléments supplémentaires, je rappelle que sur l'avis favorable que nous avions émis, nous avions formulé avis favorable avec deux demandes. Alors, très honnêtement, les demandes, je ne sais pas où elles sont, mais bon, c'était des demandes de toute façon pour s'inscrire, pour les écrire. Je rappelle quand même quelles étaient ces demandes, qui de toute façon, notre avis restait favorable, mais c'était deux demandes spécifiques. C'était le rattachement à un seul arrondissement de la nouvelle entité intercommunale, parce qu'en l'état actuel, nous allons être rattachés à Compiègne et à Senlis, ce qui quand même, ça ne simplifie pas la vie. J'ai vu passer à un moment donné dans les informations diverses et variées que l'État demandait effectivement des projets au niveau préfecture et sous-préfecture pour aller dans ce sens-là. Mais depuis, j'ai rien vu, donc je ne sais pas où ça en est. Voilà. La deuxième demande qu'on faisait, c'était que nous soyons rattachés au pôle emploi de Compiègne, puisque aujourd'hui nous sommes rattachés au pôle emploi de Nogent-sur-Oise. Il faut bien dire que pour les personnes qui doivent se déplacer et aller vers Pôle emploi, qui ont pour certains d'entre eux d'ailleurs des moyens, des difficultés de mobilité, c'est pas facile. Et le Pôle emploi de Compiègne, c'est quand même beaucoup plus cohérent. Surtout qu'on peut espérer, là ça sera à voir dans l'avenir, que nous ayons des facilités de transport vers Compiègne. Hein ? Bon, ben là, je ne sais pas du tout où on est. Hein, mais on continuera de toute façon à travailler sur ces sujets-là. Donc ça concernait la fusion communauté de communes de la Basse-Autonne et agglomération de la région de Compiègne. Sur le deuxième aspect, nous avions émis un avis favorable à la fusion des syndicats d'énergie. Donc il y a trois syndicats d'énergie qui étaient concernés, plus des gens qui étaient rattachés à des syndicats d'énergie qui étaient extérieurs au département en fait, mais c'était quelques entités. Donc les trois syndicats qui étaient concernés, c'était le SE60, CZEO et Force Énergie. Il y a eu, alors là je parle sans filet, donc Monsieur Floury vous confirmerez ou infirmerez, il y a eu un fort débat, une forte opposition en particulier du CZEO et de Force Énergie. Il faut dire qu'en gros, on les avait poussés il y a 2 ans, c'est là où je ne suis pas sûr, à peu près 2 ans, 3 ans, à créer des syndicats et donc à faire tout le travail de statut, etc. Et maintenant, en gros, ils ont terminé depuis 1 an. On leur dit, vous allez rire, vous mettez tout de côté, c'est terminé, puis maintenant, vous vous rassemblez au sein d'un seul syndicat d'énergie. Bon, le SE60 étant le plus gros, c'était plutôt, c'est une fusion, mais enfin, le SE60 avait quand même la main. Donc il y a eu un petit peu une révolte des communes concernées et des intercommunalités, je suppose. Et au final, il y a quand même eu un changement d'orientation. C'est-à-dire que, si j'ai bien compris, CZEO et Force Énergie, eux, vont fusionner. Par contre, le SE60, lui, continue à vivre sa vie. Voilà. Enfin, faut pas se leurrer. Hein. Il y aura une autre étape. Je crois qu'on ne peut pas écarter cette affaire-là. Je reviens maintenant sur la fusion, pour un petit point de situation, mais assez léger, parce que c'est un peu... on arrive sur les périodes, on va peut-être d'ailleurs savoir plus de choses. Toujours est-il que nous avons eu, il y a un mois environ, une présentation pour le cabinet Kopfler des incidences fiscales et des possibilités, présentation qui était assez complète, je ne sais plus si on en avait parlé là. Aujourd'hui, il faut qu'on revoie de près toutes ces présentations avec, avec Madame Javelot, avec l'adjoint aux finances. Et je pense qu'on fera un commentaire assez précis sur ces affaires-là au prochain conseil municipal. Mais de toute façon, ce sont des affaires en cours. Le cabinet Kopfler, lui, il annonçait quelque part des possibilités, il rappelait les décisions qu'on devait prendre, les décisions clés. Mais derrière ça, il n'y avait pas de décision, c'était une présentation. Et en plus, cette présentation, c'est ce qu'on expliquait en 2017, c'est que si tout se poursuit comme c'est prévu aujourd'hui, nous sommes soumis à un triple choc, c'est la diminution des dotations qui se poursuit. Donc le camembert à se partager entre les collectivités locales continue à se rétrécir. Il y a ensuite une réforme des dotations globales de fonctionnement. On modifie donc la répartition du camembert entre les communes. Et puis ensuite, il y a, troisième chose bien sûr, la fusion entre l'agglomération de la région de Compiègne et la communauté de communes de la Basse-Automne. Et bon, là, il y avait des tas d'incertitudes. De toute façon, ce qui concerne la réforme de la dotation globale de fonctionnement, aujourd'hui, il y a des groupes de travail qui ont tout remis à plat, puisque je vous rappelle que normalement, ça devait avoir lieu au 1er janvier 2016, mais ça a été reculé au 1er janvier 2017. On ne sait jamais, ça pourrait être encore reculé, mais ça pourrait aussi être mis en œuvre. Donc là, pour l'instant, le cabinet Kopfler avait présenté des orientations, mais sans très bien savoir ce qui se passerait. Toujours est-il que derrière ça, ça veut dire que quand on va faire la fusion, si les trois se passent en même temps, pour dire quel est l'impact de la fusion, quel est l'impact de la baisse des dotations, quel est l'impact de la réforme, tout ça mélangé, je nous souhaite bon courage. Voilà. Ça, c'est le premier point. Toujours est-il que le travail qui a été fait par le cabinet Kopfler est un travail extrêmement précis. Il y a des chiffres intéressants dedans et on fera une synthèse de tout ça. Mais là, honnêtement, on n'a pas eu trop le temps de le faire. Ensuite, a continué à se dérouler des réunions de groupes de travail pour la rédaction des statuts de la nouvelle intercommunalité. Donc là, juste quelques éléments, puisque pour l'instant, les groupes de travail ont fonctionné. Ils ont rendu leurs conclusions, mais le 30 mai, on a fait d'ailleurs avec les autres maires et vice-présidents de la communauté de communes de la Basse-Automne une réunion hier pour discuter de tout ça, de la position de la communauté de communes, enfin de toutes les communes de la communauté de communes et de la communauté de communes elle-même. Mais derrière ça, le 30 mai, on a une réunion de comité de pilotage, fusion ARCS et CBA, où là, c'est là où on va savoir un peu plus, parce que forcément, on risque d'avoir sur certains sujets des avis divergents, et puis pas sur d'autres. Les éléments supplémentaires, donc ça veut dire qu'au prochain conseil municipal, je pense quand même qu'on sera un peu plus armé pour donner des éléments qui iront plus loin. Ce qu'on peut déjà dire, c'est que pour ces groupes de travail, et moi je parle essentiellement de ce qui concerne Verberie, donc nous avons une voirie intercommunale qui se situe du rond-point qu'on peut maintenant appeler Pierre Bataille, donc rond-point Poquelin, et qui se dirige vers la déchetterie, sans aller jusqu'à la déchetterie. Donc cette voie intercommunale, elle va être reprise par l'agglomération de la région de Compiègne, d'autant plus que, en fait, ce n'est pas la voie intercommunale qu'ils vont reprendre, c'est toute la zone d'activité économique. Et toutes les voiries qui font partie de la zone d'activité économique. Donc derrière ça, quelque part, ça veut dire que nous, on leur transfère des charges. Donc après, il va falloir calculer et estimer ces charges. Bien, c'est là où on va commencer, à mon avis, à s'amuser. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le périmètre de la zone d'activité économique n'a pas été tracé précisément aujourd'hui. Donc faut qu'on la trace. Là, typiquement, parce que la personne qui avait fait ça vite fait, ils avaient inclus, par exemple, le quartier de la gare dans la ZAE. Il est évident que le quartier de la gare n'est pas dedans. Ce n'est pas une zone d'activité économique. Hein. C'est le nord de la voie ferrée. Après, est-ce qu'ils mettent Francem ou pas dedans? Ça, c'est ça qu'il faut voir. Là, ils ne l'avaient pas mis. Bon. Donc, on doit encore avancer sur ce sujet-là. Espace d'Agobert et tennis de Béthisy-Saint-Pierre, donc qui serait repris dans le cadre de la compétence construction, aménagement, entretien et gestion des équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire par la nouvelle intercommunalité. Concernant l'espace d'Agobert, nous avons, nous, un petit point particulier, puisque autour de l'espace d'Agobert, il y a une voirie. Aujourd'hui, en fait, cette voirie, on le verra tout à l'heure, à un moment donné, quand on fera la dénomination des voies, cette voirie, elle est en fait propriété de la communauté de communes. Mais comme l'agglomération de la région de Compiègne n'a pas de compétence voirie, elle ne peut pas garder cette voirie-là. Donc elle va revenir vers la commune. Cette fois-ci, on nous transfère des charges, donc on devrait avoir des compensations. Donc là, c'est plutôt dans les plus, et avant, c'était dans les moins. Relais d'assistance maternelle dans la compétence Allez-y, hein, si vous avez des questions ou des commentaires. Hein.
Non, c'est
poser
une question.
Oui, c'est ça.
On a nous, de toute façon, les plus et les moins, le cabinet Kopfer quantifiera financièrement, mais pas avant la fin août.
Hein, ah ouais.
C'est ça qui est aussi un peu problématique, puisque les compensations, nous ne les connaîtrons pas avant le mois de septembre. Pour tous les plus, les moins, et les rétrocessions de voirie.
Tout ça.
Je veux dire, est assez complexe.
La voirie concernée, on la verra tout à l'heure sur un point au moment de la. On en reparlera tout à l'heure, mais en fait c'est le haricot autour de.
Ouais,
autour. Et puis il y a également une voirie qui va tout droit quand on passe le feu pour aller au collège là. On prend à droite, ça continue tout droit et ça dessert les logements qui sont attribués aux professeurs. Et cette voirie là était propriété de la communauté de communes.
D'accord. Jusqu'à la barrière.
Qui se trouve derrière la salle d'Agobert?
Oui, alors, il y a un chemin, si on parle du chemin Saint-Corneille, c'est un chemin privé.
Non, il y a un chemin privé, c'est pas celui-là, hein, c'est le chemin des Aulnes. C'est le chemin des Aulnes.
Bon, ouais, mais bon, ça, on verra, cet aspect-là.
Le chemin Camille, qui appartient à la commune, c'est un chemin privé.
Non, c'est pas.
Il n'existe même plus, c'est des arbres.
C'est pour ça
il y a le chemin des Aulnes.
Je vous propose de rester concentré sur nos compétences. Donc, oui.
Non, pas de compétences pour les voiries, mais dans la zone économique, il y a bien des voiries.
Oui, mais en fait, ils ont compétence sur des voiries qui sont incluses dans une zone économique. Alors, je sais que tout ça est un peu compliqué.
Sur le principe, dans les textes, il y a deux choses. Effectivement, il y a les voiries d'intérêt économique qui sont directement liées à la zone, et il y a les voiries dites d'accès aux zones économiques. Il y a une nuance sur ce point-là.
Bon, là, il reprendrait tout, il reprendrait la zone, la voie intercommunale. Compétence petite enfance. Donc, on a le relais d'assistance maternelle, que j'appelle la compétence petite enfance. Donc, la compétence, là, serait créée au niveau de la nouvelle intercommunalité. Donc, elle pourrait et bénéficierait ainsi, selon une organisation à déterminer, bénéficierait à l'ensemble des communes, des 22 communes. Avec la compétence de petite enfance, je rappelle que nous avons un poste de coordination temps libre avec un séjour d'adolescent. Et nous, c'est ce qui prend en compte notamment 20% du salaire du directeur de la MJC. D'accord ? Donc là, par contre, ce ne sera pas repris en termes de compétences. Ce sera soit un service commun, soit rien du tout.
Soit une compensation.
Oui, c'est ça. Enfin, effectivement, vous avez raison. C'est pas rien du tout, soit une compensation. Voilà. Mais ça ne sera pas en tout cas une compétence au niveau de la nouvelle intercommunalité. Très haut débit. Donc très haut débit, ce qu'on peut en dire pour l'instant, c'est qu'il y a une très forte volonté des élus de la CCBA pour une reprise de la compétence par l'ARC. Et puis là, j'en reste là, on verra bien, on verra. Mais bon, là, on ne les sentait pas. Enfin, il y avait des avis partagés, manifestement. Voilà. Compétences nettoyage, débroussaillage et lagage. Donc, de toutes les voiries communales, qui était une compétence de la communauté de communes de la Basse-Autonne. Ce qui est clair, c'est que là, il n'y aura pas reprise de la compétence au niveau de l'agglomération de la région, enfin, de la nouvelle entité, intercommunale. ce sera soit un service commun, soit un retour au niveau communal. Service commun, pour ceux qui... Enfin, service commun, c'est géré quelque part au niveau de la nouvelle intercommunalité, mais ils font appel les communes qui le désirent, et bien sûr, les prestations leur sont facturées. D'accord. C'est ça, hein. Après, il y a sans doute des subtilités diverses et variées,
c'est ça,
mais...
Tout à fait.
C'est ça. Assainissement et eau potable. Alors, c'est un sujet important, là. D'ailleurs, il va y avoir une étude spécifique du cabinet Kopfler sur ce sujet. L'assainissement deviendrait une compétence complémentaire, c'est-à-dire que, a priori, si ça devient une compétence complémentaire, c'est que la compétence n'est pas reprise, tu me dis si je me trompe, Ferrou, au 1er janvier 2017, mais au 1er janvier 2018.
C'est ça, mais ça serait une compétence optionnelle.
Ah, j'ai dit complémentaire, voilà, c'est optionnel,
c'est optionnel.
Pardon. Optionnel.
Voilà.
Et l'eau potable serait une compétence supplémentaire.
C'est ça.
Qui, elle, peut vivre 2 ans.
Voilà.
Donc, en 2019, la compétence eau potable deviendrait une compétence de la nouvelle entité intercommunale.
Donc, voilà. Donc le CIVOM pourrait survivre un an en tant que CIVU, et l'assainissement serait transféré légalement au 1er janvier, mais en fait, là, ils le prendraient véritablement, qu'ils peuvent le prendre tout au long de l'année 2017. Au 1er janvier 2018, c'est terminé, ça passe à l'arc. Et pour l'eau,
ça fait un an pour lisser les choses.
Comment?
Ça va se passer comment pour les particuliers? Il va y avoir un changement.
Couper l'eau.
Bah.
C'est vrai que...
Non, pour les particuliers, de toute façon, il y a des contrats qui sont en cours à fermage, c'est comme ça qu'on appelle.
Oui.
Ou affermage, je ne sais plus. Affermage. Un affermage qui est en cours. C'est un contrat qui est signé jusqu'à une certaine durée. Ça continue cette durée-là. Après, il y aura un autre contrat, appel d'offres, tout ce qui va bien, et on pourra changer. Mais on ne peut pas... Les contrats continuent. Donc, au niveau de l'usager lui-même, je pense que ça risque d'être assez transparent.
Oui, dans un premier temps, il n'y aura pas de changement. Après, la volonté, au fur et à mesure que les délégations en cours arrivent à terme, l'ARC va essayer de faire une plus grosse délégation, le but étant de faire baisser les coûts, le prix de l'eau. C'est l'objectif. Voilà, déjà d'une part, effectivement, il y a une harmonisation du prix de l'eau entre les différentes communes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a des communes qui sont chères et d'autres beaucoup moins. Et puis aussi de faire baisser globalement le prix de l'eau en faisant jouer, donc en faisant mettre en place des grosses DSP ou des grosses structures de gestion, et pour tout ça, pour faire baisser le prix de l'eau à terme. Alors à moyen terme, je pense, pas à court terme. Mais donc là aussi, il y a un cabinet, le même cabinet d'études qui travaille sur ces transferts de compétences. Ils ont demandé un certain nombre d'éléments aussi, vous, que nous avons fournis. Là, j'ai eu récemment, hier, donc une nouvelle demande de complément et une demande de conférence téléphonique avec la responsable pour éclaircir un certain nombre de choses. Et puis, normalement, le cabinet devrait rendre ses travaux pour la fin juin. Et c'est à ce moment-là que la décision... Enfin, ils vont voir un peu l'impact de la reprise des contrats du syndicat des eaux, celui de Saint-Yves-Saint-Sauveur, notamment... les communes de Néry, etc., voir tout ce que cela va représenter pour la nouvelle entité par rapport à l'existant.
Bon,
mais voilà. Pour l'usager, il n'y aura pas de changement. Dans un premier temps, c'est le prix que nous avons, nous, établi, qui sera appliqué. Voilà.
Alors la loi, pour compléter, la loi autorisait jusqu'en 2020.
Oui,
tout à fait.
Mais comme là, c'est une fusion entre l'avion
voilà.
Et...
On est à l'intérieur du périmètre.
Il y a une obligation à l'intérieur du périmètre de n'avoir que 2 ans, donc de fusionner en 2018.
Tout à fait, tout à fait. Et sinon, dans les autres cas, ça peut aller jusqu'en 2020. Mais pour nous, dans la situation de l'ARC, c'est au plus tard 2019 pour l'eau et au 1er janvier 2018 pour l'assainissement.
Bon, pour ce qui est ensuite des déchets ménagers, ça continue. On va vivre avec le contrat que l'on a actuellement pendant les 5 ans, donc jusqu'au 31 décembre 2020. Voilà, a priori. Pour nous, le point qui est encore important à signaler, C'est surtout que l'agglomération de la région de Compiègne, a priori, va laisser une antenne sur Verberie. Ce sera une antenne légère. Donc, typiquement, en particulier, ils ne vont pas conserver le siège de la CCBA. Donc, le siège de la communauté de communes va revenir pleinement dans le giro communal. Il va donc falloir réfléchir à ce que l'on en fera. Ça, c'est quand même un point qui est très important et dont il va falloir s'occuper. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour des principaux points. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter.
Oui.
Donc, il faut s'en occuper rapidement.
Très bien. Je vous propose maintenant, après cette séance d'information, enfin je trouvais que c'était le moment, de passer au point suivant de l'ordre du jour. Donc le point suivant de l'ordre du jour concerne les indemnités de fonction des élus locaux. Alors, le législateur a entendu par la loi du 31 mars 2015. Donc c'est une loi qui est intervenue postérieurement aux élections. Améliorer les conditions d'exercice des mandats locaux. Depuis le 1er janvier 2016, conformément aux dispositions des articles 3 et 18 de la loi numéro 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter par les élus locaux de leur mandat, les maires bénéficient automatiquement des indemnités de fonction fixées selon le barème prévu à l'article L2123-23 du Code général des collectivités territoriales, autrement dit, de l'indemnité maximale. Dans les communes de plus de 1000 habitants, le conseil municipal peut, à la demande du maire et par délibération, fixer pour celui-ci une indemnité inférieure au barème. Voilà, donc moi, en tant que président de séance, je propose à l'Assemblée de confirmer les termes de la délibération du 10 avril 2014 qui fixe pour le maire une indemnité basée sur un coefficient de 29,70% de l'indice brut 1015 au lieu de 55%. Pourcentage servant de référence à l'indemnité de fonction versée au maire d'une commune de 3500 à 9 999 habitants. Voilà, il y avait joint le tableau récapitulatif des indemnités de fonction qui était annexé à la présente délibération. Voilà, et qui donc adoptée sera identique à celle qui a été établie au 30 mars 2014. Est-ce que il y a des commentaires particuliers, des remarques ?
Bon, des remarques, moi j'en préviens une. Je considère qu'en tant que maire d'une commune qui est maintenant quand même importante, avec la gestion de services qui sont lourds, il me paraît très légitime que ton indemnité soit supérieure à celle que tu avais choisi de fixer en 2014, nonobstant effectivement la situation délicate des finances publiques. Mais je considère que tu passes beaucoup de temps au service de la collectivité et que ce serait un minimum que de relever le taux de cette indemnité. Ce serait à peine un juste retour des choses. C'est mon point de vue.
Je te rejoins.
Je dirais que le travail n'est pas fait à moitié. Hein. Donc,
tout à fait.
Et si le législateur a prévu,
c'est une reconnaissance.
Absolument. C'est une.
C'est pas vraiment, non, non.
C'est une reconnaissance et c'est. C'est très largement mérité. Enfin, c'est déjà en soi.
Moi, je ne suis pas d'accord. Je trouve que ça va à l'encontre de ce qu'on demande comme effort à tout le monde. Donc, la tâche, on la prend. Je rappelle que c'est une indemnité, c'est pas un salaire. Que c'est aussi une fonction que l'on prend à cœur.
Oui.
Et que ça a vraiment de l'importance. Et que monsieur le maire, il avait choisi ça en connaissance de cause, qu'on puisse ce qu'il devait faire, etc. Donc,
Je ne vois pas pourquoi il y aurait un souci d'augmentation. Chacun d'entre nous, ce n'est pas parce qu'on nous donne un peu plus de travail qu'on est forcément augmenté.
C'est votre point de vue. Votre point de vue se défend très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus.
Pour moi, ça va à l'encontre de tout ce qu'on demande actuellement.
Alors,
c'est un contresens pour moi. C'est un non-sens.
C'est votre point de vue.
La base n'est pas la base de la rémunération que M. le maire prend est trop faible par rapport à ce qu'il pourrait prendre.
Peut-être, mais c'est lui qui l'a choisi.
Il a choisi.
Il a choisi effectivement dans.
Une obligation. Donc.
Après, il y a aussi
le moi, je considère qu'il n'y a aucun frais de déplacement quand il s'en va dans les réunions.
Voilà.
Ça fait partie de.
Ça lui paye tout juste son essence.
Son essence.
Ah, bah oui, mais on est bien d'accord.
À ce moment-là, il va pouvoir faire des notes de transport, des notes de frais qui arriveront au même salaire.
Très largement au-delà. Il y a beaucoup de. Voilà.
Moi, je sais très bien, c'est comme ça que j'ai toujours dit d'ailleurs que.
Moi, je pense qu'il faut aussi valoriser l'engagement, même si il faut valoriser aussi. Oui, mais il faut le valoriser aussi, Madame Poulet. Il y a à la fois d'énormes responsabilités. Il y a les responsabilités attachées à la fonction.
Lorsque vous vous retrouvez au tribunal, on ne demande pas si vous avez pris la moitié.
Exactement, je suis d'accord avec vous. Parce qu'il y a la responsabilité.
Oui,
elle est immense. Donc. C'est vrai que la responsabilité, elle n'est pas divisée par deux lorsqu'on a un souci avec un usager, malheureusement, ou avec les tribunaux, parce que tout ce qui peut être attaché à la gestion de la commune.
Bon. Je comprends tout ce qui vient d'être dit ici.
Deux petits trucs, deux petits points.
Bien sûr.
Deux petits points. Moi, je pars du principe que quand on part au combat, on sait avec ce qu'on part. Après, moi, maintenant, je dis que c'est à M. le maire de choisir.
Ah oui ?
Il avait choisi de baisser son montant d'indemnité. Après, s'il veut l'augmenter, c'est libre à son choix. Oui, on a le droit de critiquer, on a le droit de dire ce qu'on veut, voilà. Moi, je pars du principe, c'est comme ça, c'est quand moi je vais travailler le matin, des fois je dis « putain, ça me fait chier d'être travailler, quoi, je vais quand même. » Et je suis pas augmenté pour ça, non, mais sans déconner, c'est vrai. Moi, maintenant, je suis dans le syndicat, qui est mal vu par les gens maintenant, je me déplace, c'est grâce à ça. Donc après, il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Quand on part au combat, Michel sait très bien ce que je parle, et là on y va, et qu'est-ce qu'on a. Et après, moi, je pense que c'est lui à seul de décider, pour moi.
Alors,
de ce qu'il veut faire. Et après, on juge.
Non, ce que je veux dire,
on juge dans notre tête.
On en discute, on en parle.
Hein? Après, c'était
son choix premier. Donc, c'est pas nous qui lui avons dit qu'il faut passer sur une barème-là.
Parce que les législations.
Moi, je respecterai son choix.
Ouais. On émet des points de vue. Hein, ce sont des points de vue. Chaque point de vue vaut l'autre. Hein.
Donc, je rappelle juste que si on repasse aujourd'hui cette affaire-là, c'est bien parce que l'État a décidé de changer les règles du jeu. C'est pour ça qu'on la repasse aujourd'hui. Hein.
Dès qu'on parle d'argent.
Ensuite, ce que je veux dire, c'est que ce que j'ai proposé là, c'est effectivement après réflexion, ce que, quelque part, j'ai décidé en mon âme et conscience. Mais tout ce qui a été dit autour de la table, je tiens à le dire et je vais dire quelques mots, je pense que c'est tout à fait exact. Donc en fait, moi j'ai choisi effectivement à la prise de fonction une baisse de 46% par rapport au taux maximal des indemnités de maire. Il est clair que l'indemnité que je touche aujourd'hui est très loin d'être représentative du travail fourni et des responsabilités exercées, ce qui rejoint ce qui vient d'être dit. Je ne connais pas beaucoup de conseils municipaux ou de conseils d'intercommunalité qui aient fait les mêmes efforts. Toutefois, nous, c'est-à-dire la France, la région, le département, la commune, les habitants, sommes dans une situation difficile et il s'agit de montrer l'exemple en espérant que cela fasse changer les regards des citoyens sur ceux qui exercent des responsabilités publiques. Cela fasse changer les comportements et les attitudes quant au bien public et quant au respect de l'autre, qu'il soit maire, conseiller municipal, voisin ou passant que l'on croise dans la rue. La qualité de vie tient bien plus dans la convivialité et le bien vivre ensemble que dans la quantité de biens que l'on peut accumuler. La valeur d'un homme tient bien plus dans son comportement, son attitude et ses capacités que dans la quantité de biens qu'il détient. Voilà les quelques mots que j'ai écrits et j'y ai réfléchi longuement. Et encore une fois, ce qui a été dit autour de la table, je respecte profondément ce que chacun a dit. À titre d'exemple, et pour terminer sur le sourire, cette affaire-là avant de passer au vote, ce matin, je suis allé sur Internet et j'ai trouvé l'article suivant qui est paru dans La Voix du Nord, aujourd'hui. Le maire Michel Arnoux a démissionné. C'est exactement la même orthographe.
C'est un homonyme.
Oui, que j'ai vu sur Facebook.
Élu en mars 2014 pour la première fois, Michel Arnoux a récemment décidé de mettre un terme à son mandat de maire.
T'aurais pu le prévenir quand même.
Pour expliquer sa décision, qui n'a pas été prise à la légère, Michel Arnoux, 66 ans, donc il a quelques années de plus quand même, aujourd'hui invoque un épuisement physique et moral. Voilà. Bon, il y a quelques autres mots dedans, mais voilà, je veux vous dire que quand même aujourd'hui, ce qui a été dit autour de la table au niveau de l'investissement, des exigences, dans les conditions actuelles, avec un État qui est de moins en moins présent, qui n'est plus là pour conseiller, c'est difficile. Même, c'est difficile, toutefois, je tiens à dire que je suis bien entouré d'une part... avec l'équipe des employés municipaux, avec Madame Javelot, avec Arnaud Leblanc et les autres à leur poste. Et je suis également bien entouré par chacun d'entre vous. Et il faut absolument que ça continue comme cela. Voilà. Merci. Et par mon épouse, mais ça c'est un autre cadre que je n'ai pas précisément à aborder, mais c'est vrai.
C'est important aussi.
Mais voilà. Ceci dit, maintenant. Tu l'as cité dans l'équipe municipale.
Non ? Oui, elle est citée dans l'équipe municipale, mais c'est un autre titre.
Elle est citée quand
même. Maintenant, je vous propose de passer au vote. Donc, je propose de maintenir de faire le statu quo en fait. On reste où on en est. Voilà. Qui est contre ? Qui s'abstient ? 1, 2, 3. 4, 5 abstentions. D'accord. Qui est pour ? Donc le reste. Ouais, donc dans les abstentions, oui, il n'y avait pas de. Il n'y avait pas de pouvoir. Hein. Donc s'il y a. J'ai dit combien ? 4 ou 5 abstentions ? Je ne sais plus.
5
abstentions. Ah bah attendez, vous pouvez relever la main les abstentions, s'il vous plaît ? Donc on est 19 et 4, 23. Hein, donc 23 moins 5, ça fait 18.
Je voudrais juste te faire une remarque. Le texte que tu as rédigé, je trouve qu'il serait bien qu'il soit noté au rapport du conseil municipal.
D'accord.
Je demande à ce qu'il soit noté pour que chacun des habitants puisse le lire.
Bon, ce sera fait. Bon, je vous propose de passer à un autre point du conseil municipal, si je retrouve l'ordre du jour que j'ai perdu. Vie associative, aide financière pour les jeunes de moins de 18 ans. Alors, je vais dire quelques mots d'introduction, puis je te laisse la parole, Patrick. Oui, oui. Bon, je vais le prendre alors. Bon, donc c'est un travail qui a été réalisé en commission des finances. On avait validé cette affaire-là. Au moment d'ailleurs, on avait discuté des subventions. Il s'agissait d'accorder une aide de 15 euros aux jeunes de moins de 18 ans pour s'inscrire dans une association jeunes de moins de 18 ans de Verberie. Pour s'inscrire dans une association de Verberie. Alors pour moi, il s'agit de faciliter l'entrée des jeunes, et notamment ceux des familles qui ont des revenus faibles et des adolescents dans les associations. En outre, cette mesure est de nature à dynamiser et à aider nos associations, au sein desquelles ils peuvent trouver des modèles, peuvent apprendre le respect de l'autre et des règles de vie en communauté, peuvent développer le goût de l'effort, acquérir la volonté de se dépasser et découvrir de nouvelles activités, ou de nouvelles passions d'ailleurs. Donc c'est bien dans cet esprit-là qu'on propose au conseil municipal cette mesure qui a été vue encore une fois en commission des finances. Donc sur avis de la commission des finances, je propose à l'Assemblée d'accorder à compter de la rentrée 2016 une aide financière de 15 euros à chaque jeune âgé de 18 ans
De moins de 18 ans.
C'est pour voir si vous suivez. Ah. De moins de 18 ans, domicilié dans la commune pour son inscription dans une association sportive ou culturelle de Verberie. Une seule aide par jeune et par année scolaire. D'accord ? De verser cette participation directement à l'association après le vote du budget primitif de l'année scolaire concernée. D'accord. Ce qui facilitera les choses au niveau comptable. Il y a un petit point à aborder qui n'était pas dans la note. Nous avons une association qui s'appelle la MJC. Je fais une différence, je voudrais votre avis. Je me dis que l'adhésion d'une famille à la MJC, ça rentre pas dans ce cadre-là. Par contre, l'adhésion, parce que je crois que quand ils souscrivent à une activité, ils paient une cotisation supplémentaire.
Tout à fait.
L'adhésion à une activité, s'ils choisissent une activité de la MJC, ouvre droit à ces 15 euros supplémentaires. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition ?
Tout à fait.
C'est pas pour payer l'inscription à l'association en tant que telle.
C'est pour l'activité.
C'est pour
l'activité de l'association.
Une des activités de l'association. Parce qu'il y a multiples.
Oui, ce serait une des activités. En fait, chaque activité, dans ce cadre-là, ça représente une petite association, au titre de ce qu'on vient de dire, là.
Bien sûr.
D'accord ? Bien. Questions, commentaires ? Bon. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, voté à l'unanimité.
Ça représente 200 enfants à peu près.
Donc, un coût de l'ordre de 3 000 euros.
200 enfants, mais justement, ça peut peut-être permettre d'en avoir plus.
Oui, d'en avoir plus, et puis ça va...
Il y a peut-être des enfants qui ont besoin de référents, qui ont besoin... voilà. C'est vu dans ce sens-là aussi. Nouvelles activités périscolaires, je laisse la parole à monsieur l'adjoint aux finances.
Alors nous avons, lors de la commission finances du 7 avril 2016, fait le point sur les nouvelles activités périscolaires. Et je voulais déjà vous faire un petit compte-rendu de l'activité 2015. Pour votre information, donc le coût en charge de nouvelles activités périscolaires représente 38 451,02 €, pour des recettes de 54 218,45 €. Alors, ça fait un résultat positif de 15 767,45 €. Alors pourquoi ? Là-dedans, il y a les recettes familles qui représentent 19 240 € qui sont versées à la MJC, les recettes de la CAF qui représentent 9 117 € en fonction du nombre d'heures. Il y avait un excédent sur l'année 2014 de 1 036,45 €. Des factures MJC donc à hauteur de 3 775,02 €, et des recettes pour le soutien scolaire qui nous est versé de 21 050 €. Donc ça nous fait un excédent de 15 767,45 €. Donc, compte tenu de ce résultat, la commission finance a émis la proposition de réduire le montant des nappes de 20%, soit 4 € de mettre le montant 4 € pour les personnes non imposables et à 12 € pour les foyers imposables à compter de la rentrée de septembre.
Ce sont des montants mensuels.
Annuel.
Non, c'est mensuel. Aujourd'hui, il payait 5 euros mensuellement et 15 euros mensuellement.
D'accord, très bien. Voilà,
donc, on a mis le même pourcentage pour chaque cadre. Et le but de je rappelle que le but de faire payer les gens, ce n'est pas tellement de recevoir de l'argent, là. Mais c'est surtout
pour responsabiliser.
Pour responsabiliser les parents qui mettent leurs enfants, parce que si on ne faisait pas payer, ce serait impossible à gérer.
Tout à fait.
Pas avec tous, mais
on a des cas difficiles à gérer. C'est pas évident pour la MJC de mettre ça en place. Et je tiens par la même occasion à remercier la MJC pour le travail qu'ils ont fourni pour les nappes, parce que c'est un travail qui est quand même important. Voilà.
Oui, et sur cette affaire-là, quand on lit les comptes rendus, la manière dont ça se passe dans d'autres communes, je pense qu'on peut être quand même extrêmement satisfait de la manière dont ça se passe à Verberie, pour avoir assisté au CA d'ailleurs de la MJC, dont ça se passe aussi dans les autres communes pour lesquelles ils interviennent. Ça se passe bien, chaque commune ayant ses particularités. Pardon.
Et en profiter aussi pour remercier les bénévoles qui participent au NAP. Voilà.
Juste, peut-être faut-il préciser que dans les 15 000 d'excédents, quand même, on ne tient pas compte ce que c'est difficile à chiffrer. Il y a les faux frais, en fait. C'est-à-dire que les locaux sont quand même utilisés pendant ce temps-là. Il y a l'eau, l'électricité.
Là, c'est
pas 15 000.
C'est l'arrêté comptable qui reprend le personnel de la mairie. Tout ce qui est pris en charge par les factures de la MJC pour les intervenants. Les intervenants de la MJC et les intervenants extérieurs. Intervenant MJC, ça nous coûte 23 404 euros à l'année, et les intervenants extérieurs, 9 763 euros.
Bon, donc il a semblé, on reste positif, mais il y a quand même des incertitudes derrière, il faut être prudent, mais on diminue quand même de 20% ce qu'on demandait aux familles.
C'est vrai que, par exemple, le soutien scolaire, l'an prochain, il risque d'être moins important puisqu'on ferme une classe.
On a moins d'enfants.
Donc on aura moins d'enfants, donc tout est lié, en fait. Mm-hmm. Voilà.
Aujourd'hui, il y a quand même plus grand-chose qui baisse de 20%.
Non, mais c'est bien.
Donc c'était une proposition de la commission des finances.
Hein, certes. Oui.
Je propose les commentaires, est-ce qu'il y en a encore ou pas, ou questions, ou je sais pas. Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Prochain point de l'ordre du jour, et on ne change pas une équipe qui gagne. Type irrécouvrable, admission en non-valeur.
Alors, Monsieur le Président de séance propose à l'Assemblée d'admettre en non-valeur des types présentés pour titres impayés ce jour à hauteur de 9 981,39 €. Donc c'est ce qu'on prévoit chaque année. Il faut savoir qu'à février 2016, on a 128 000 euros de titres en cours de paiement, de recouvrement. Et donc là, on a demandé à passer les plus anciens. On n'a pas le choix. Donc on passe cette année. Il y en a, je ne vais pas donner les noms. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Là, ça représente 25 titres, quoi.
Qui ont été émis
en 1988.
En 88 et les derniers en 1991. Pour vous dire que la possibilité même juridique de recouvrer.
Donc il y a les personnes décédées, il y a les personnes. Voilà.
Il y a vraiment.
Il y a un peu de tout.
Prescription, là.
Il y a prescription.
Avant de voter, j'en profite pour dire. Les 128 000 euros, c'est pas tout à fait la manière dont il faut regarder les choses. Hein. Dans les dettes, il ne faut pas regarder ce qu'on a qui n'est pas rentré aujourd'hui, qui devrait être rentré par exemple parce que la facture a été émise il y a 3 jours. Il est évident que ce n'est pas rentré. En fait, l'aspect le plus pertinent, c'est de regarder, c'est ce que nous disait le Trésor public, plutôt ce qui n'est pas rentré depuis plus d'un an. Hein, voilà. Et là, on n'est pas à 128 000 euros, on est très, heureusement, on est très loin de ça. Mais comme vous venez de le voir, il nous reste 40 à 50 000 euros quand même, qui sont des dettes très très anciennes. Enfin, bon, voilà, on a cité les années, et qu'il va falloir écluser sur plusieurs années. Parce que là, c'est de l'argent fictif. Hein. Bon, donc au titre budgétaire, il va falloir. Autre aspect, je tiens à le souligner, l'adjoint aux finances est extrêmement attentif sur ce point-là. Et je crois que dans l'année 2000, c'était l'année 2014, il nous restait 5000 euros d'impayés sur l'année, sachant que sur les 5000 euros, nous avions une condamnation au tribunal de 2000 euros pour une personne qui était incarcérée. Donc de toute façon, il n'avait pas pu régler. Donc en gros, il y avait eu 3000 euros d'impayés. Voilà, donc c'est dire qu'il voilà, y a un vrai travail, une grande attention là-dessus, des relances que fait l'adjoint en finance, même si normalement c'est le travail du Trésor public, et puis il y a un travail aussi de proximité avec le Trésor public. On peut dire ça comme ça.
Ça permet d'assainir certains cas importants par des échéanciers. Ouais. On arrive à trouver des compromis en rencontrant les gens. Oui.
Puis je dois ajouter qu'à ces époques-là, il y avait beaucoup de maisons et de loyers à payer. Hein, parce qu'il y avait plusieurs maisons au niveau qui appartenaient à M. Finon, hein, qui étaient mises à disposition, sur lesquelles les loyers ne rentraient pas. Ici, c'est pareil, hein, c'était en fait, des cas sociaux qui seraient retrouvés dans la rue. Et aujourd'hui, ces maisons-là ont disparu. Des rues de Paris aussi, où il y avait des loyers. Il y en avait chez les pompiers, hein, où il y avait beaucoup de cas sociaux. Et à cette époque-là, il y avait beaucoup d'impayés, surtout d'impayés de loyers, hein, qui étaient sur des familles en difficulté. Il y a beaucoup moins aujourd'hui, hein, puisque à l'époque, on s'est séparés de nombreux, que ce soit la gare, que ce soit ici, que ce soit les pompiers, que ce soit la rue de Paris. Donc la situation aussi immobilière s'est totalement assainie. Et permet d'avoir moins d'ateliers. Il reste surtout, je pense, un peu de cantine maintenant, et peut-être encore un peu d'impayés.
Pas beaucoup en fait. Hein.
Ça va.
Mais c'était
surtout la vente de l'immeuble des Remparts va nous aider, non?
Ça sera plus un problème.
Je ne comprends pas parce que vous dites qu'il y a des impayés de loyer, mais les loyers sont payés directement aux impôts. Non, ils n'étaient pas payés à la mairie.
Les impôts, qu'est-ce qu'ils font? Ils font pas de réclamation? Ils font des réclamations, mais comme il n'y a personne aux impôts pour s'en occuper, ça reste la tournée.
C'est bizarre parce que
tu ne
peux pas avoir, il y a un certain quota maximum. Il faut que les familles puissent vivre.
C'est ça, on ne peut pas tout saisir.
Mais même en saisir. Alors, c'est compliqué. Hein, c'est...
En fin de compte, c'est la bonne solution.
La bonne solution, des fois, c'est quand même une situation désastreuse.
Quand on est de mauvaise foi, oui, mais sinon, quand il y a des situations justifiées, c'est moins drôle. Je ne pense pas qu'on s'amuse.
Effectivement, ça tient à plusieurs phénomènes. Celui qui a, dans ce qui a été cité, hein, il y a d'une part des gens qui sont vraiment dans une détresse importante. Il y a des gens, et puis ensuite, il y a effectivement au niveau du Trésor public, surtout aujourd'hui, ils rencontrent des problèmes d'effectifs qui sont quand même très importants. Il faut le savoir. Nous, notre politique, c'est plutôt tout le monde doit payer, même quand on a très très peu de moyens. On a ici un organisme social qui est là pour accorder des aides, c'est le CCAS. Mais dans ce cas-là, il y a un dossier qui est monté, et au moins, il y a une analyse de la situation financière des intéressés. Maintenant, on applique ça et on essaie d'avancer avec ça. Ça se passe quand même pas mal. Ceci dit, là, il faut quand même les 40 à 50 000 euros. On en a pendant 4 à 5 ans à prendre 10 000 euros tous les ans. Et après, de toute façon, tous les ans, il restera quelque chose. Hein.
Oui.
Il n'y a pas d'illusion. On revient au sujet. Je vous propose de voter. Donc, je vous propose d'admettre en non-valeur les titres présentés pour un montant de 9 980 euros et 39 centimes. Mesdames, merci. De prélever le montant de la dépense sur un crédit suffisant qui sera inscrit au compte 6541, créance admise en non-valeur du budget de l'exercice en cours. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Bien, ensuite, j'ai un point. Je retrouve ma feuille qui va bien. Oui. Alors, annulation sur de titres sur exercice antérieur. Alors, ce n'est pas du tout la même chose. Hein. Il s'agit d'une erreur de nos services. En fait, on a facturé à quelqu'un quelque chose qu'il n'avait pas à payer. Bon, la moindre des choses, c'est d'annuler la facture.
Il s'en est aperçu.
Dommage, on n'a pas eu de bol.
Des titres qui ont été émis pour deux enfants qui ne fréquentaient plus la cantine en décembre 2015. Suite à une erreur, il convient donc d'annuler, procéder à l'annulation de deux titres émis sur l'exercice précédent. Bon, je propose donc à l'Assemblée de procéder à l'annulation du titre 1533 du 28 décembre 2015 pour un montant de 72,80 euros à l'encontre de Monsieur ou Madame Vignoble et Jeannot Vincent. On peut citer leurs noms sans problème, hein, puisque c'est noir de notre part. Hein. Ils sont pour rien, les pauvres. Au contraire, on s'excuse. Concernant des repas à la cantine pour l'enfant Enzo, de procéder à l'annulation du titre 1534 du 28-12-2015 d'un montant de 72,80 euros à l'encontre des mêmes personnes, décidément, on ne les aimait pas, concernant des repas à la cantine pour l'enfant Ilona. De prélever le montant de la dépense sur un crédit suffisant inscrit au compte 673, titre annulé sur exercice antérieur, du budget de l'exercice en cours. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité et je leur présente toutes nos excuses. Point suivant de l'ordre du jour, tarif de location des salles communales. Alors, vous avez reçu les tarifs, on va peut-être pas les passer en tous les lire. Ce qui a été appliqué, c'est 1%, c'est l'inflation qui a été appliquée. C'est pour ça qu'on n'a pas jugé utile de réunir la commission des finances, là. Par contre, à l'avenir, si jamais l'activité séminaire prend de l'ampleur, là, je pense qu'il faudra revoir nos tarifs d'une autre manière. Mais on n'en est pas là. Donc là, on propose de prolonger pour... donc ça rentre en vigueur au 1er janvier 2017, les tarifs en faisant plus 1%. Vous avez le détail des tarifs sous vos yeux. Hein. Donc je vous les laisse les parcourir et poser éventuellement des questions si vous en avez. Bien. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Tarif des concessions au cimetière. Je laisse la parole à l'adjoint aux finances.
Donc, toujours suite à la réunion finance du 7 avril 2016. Il a été proposé de modifier les tarifs des concessions au cimetière. Donc la commission propose donc de passer la concession trentenaire de 110 à 150 euros et la concession cinquantenaire de 175 à 215 euros. Pour information, ces tarifs restent encore sensiblement inférieurs à ce qui se fait dans les alentours. Voilà.
Et pour quelles raisons, les augments ?
Alors, il y a déjà... Pardon ?
Pourquoi on augmente?
Parce que la
commune, elle n'a pas besoin d'argent.
C'est pas la mairie qui gère la tombe.
Le cimetière qui gère la tombe.
Alors, les je vais fournir quelques explications ou quelques éléments de réponse sur ce point-là. Un peu de calme. Bon, déjà, on regarde un peu ce qui se fait aux alentours pour rester dans les mêmes. Là, on a regardé un peu ce qui se faisait aux alentours comme prix. Parce que un cimetière, l'entretien d'un cimetière, c'est quand même, au final, si on fait le compte, c'est beaucoup d'argent. Mais point supplémentaire, nous sommes rentrés dans une période où un certain nombre de concessions sont arrivées à leur terme. Et les concessions étant arrivées à leur terme et les familles ne souhaitant pas les renouveler, au début d'un, à la suite d'un processus qui a été commencé bien avant les élections d'ailleurs, parce que ça prend du temps, il y a donc aujourd'hui des concessions qui sont finies et il faut donc retirer, alors je ne prends peut-être pas les bons termes, hein, mais il faut donc retirer les corps, exhumer les corps.
Exhumer les restes. Exhumer les restes. Les corps,
c'est... Il faut donc exhumer les corps, les mettre dans l'ossuaire. Les procédures ont complètement changé. Avant, dans un ossuaire, on mettait tout comme ça, quoi. Hein. Bref, maintenant, on vous oblige, il faut une boîte par corps. On ne se discute pas, hein, c'est bien. Il faut avoir le nom, etc. Donc déjà, on voit que les coûts augmentent. Et en plus, le fait de retirer le corps, etc., ça va être à la charge de la mairie. Hein. Donc, il y a des coûts. Là, on rentre dans cette phase-là, il y a forcément des coûts plus importants. Cette année, on a prévu de consacrer, si je me souviens bien, Francis me rectifiera si c'est pas bon, ou l'adjoint aux finances, 10 000 euros à cette affaire-là. Sans parler de l'ossuaire qu'on vient de remettre en place, parce que celui qui est plein, on ne peut pas le vider, ça reviendrait à une fortune, étant donné la manière dont ça a été fait. Voilà, donc tout ça, c'est oui, des explications.
Quand on ne sait pas, on pose la question.
Ah, mais il n'y a pas de
problème. C'est toujours surprenant qu'on ait beaucoup de questions quand ça augmente, et puis que les nappes, quand ça a baissé de 20%, il n'y a pas eu autant d'esclandres. C'est marrant, hein, toujours dans ce sens-là. Non, parce que moi, ça pourrait m'interroger de me dire, mais pourquoi on baisse de 20%?
Bien.
Moi, je me suis posé la même question.
Je te taquine, Michel, on a bien compris. En même temps, quand tu ramènes le 110 euros sur 30 ans, bon. Je pense que tu vois les sujets sont.
En parlant justement de concession.
Attendez, je propose, tu poseras ta question après, je propose de passer au vote, là. Après, je te laisse poser ta question. Hein. À moins qu'elle ait trait au vote lui-même.
Non, c'est un prolongement.
Bon, alors on va voter, puis tu poses ta question après. Donc, sur les tarifs annoncés, donc, que je peux rappeler, hein, 150 euros pour une concession trentenaire. 215 euros pour une concession cinquantenaire, donc 150 euros pour 30 ans, 215 pour 50 ans. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc c'est voté à l'unanimité. Tu peux poser ta question.
Oui, en parlant des concessions, quand vous avez des concessions à perpétuité,
Oui, mais
il n'a pas le droit de défaire une concession à perpétuité.
Je viens t'apporter la réponse, Michel.
Voilà le règlement.
Je t'apporterai. La... Je ne sais pas te répondre.
Enfin, Michel, même si on lui pique la place, on s'en fout, il ne va pas venir porter plainte contre nous. Hein.
Bien, du calme. Je vois que Francis est tout sourire, mais...
Ce sera un sujet de prédilection.
Donc, je plaisante.
Donc, on apportera la réponse sur ce fait-là. Mais là, je ne l'ai pas.
Oui. Non, mais c'est bien sûr que...
Mais il y a une procédure. Il y a une procédure.
Si c'est la loi qui dit
qu'en fait. Non, il n'y a pas de.
Pour information, merci. À Pontpoint, le maire a refusé de démonter le vieux cimetière avec vieilles tombes. Et il a recréé un nouveau cimetière, mais il a laissé les vieilles tombes parce qu'il ne veut pas les démonter.
Je propose de passer au point suivant, mais j'apporterai la réponse à la question. Ce soir, c'est très, très bruyant, agité. Ça doit être parce que le temps est à l'orage.
Ça peut être ça.
Régime indemnitaire du grade d'adjoint technique de première classe. Donc, monsieur le président de séance expose à l'Assemblée qu'une délibération du conseil municipal du 15 novembre 2010 définissait le régime indemnitaire pour le grade des adjoints techniques de première classe. Il précise qu'il appartient en effet au conseil municipal de déterminer la filière, le cadre d'emploi, le grade concerné par le régime indemnitaire institué, ainsi que le crédit global dans la limite des taux définis par les décrets. Depuis 2010, le tableau des effectifs a été modifié à plusieurs reprises avec l'arrivée d'agents sur ce grade. Il est nécessaire de réactualiser le tableau figurant dans la délibération du 15 novembre 2010. Considérant qu'il est souhaitable que le régime indemnitaire puisse prendre en compte la responsabilité fonctionnelle assumée par chaque agent, la qualité des missions effectuées et surtout la manière de servir. Considérant que le régime indemnitaire doit être défini pour pouvoir permettre au maire de l'utiliser comme outil de gestion de personnel. Je propose donc à l'Assemblée de maintenir l'indemnité d'administration et de technicité, IAT, à compter du 1er juin 2016 par référence à celle prévue par le décret 2002-61 du 14 janvier 2002 pour le grade des adjoints techniques de première classe. Donc là, on reste sur une affaire identique. Que le crédit ouvert dans le cadre duquel le maire effectue des attributions individuelles est calculé comme suit, montant de référence multiplié par coefficient multiplicateur multiplié par nombre d'agents concernés. En clair, dans le tableau qui est en dessous, par rapport à 2010, ce qui change, c'est que dans la dernière colonne, nombre d'agents, titulaires ou non titulaires, à la place de 5, vous avez 6. Voilà ce qui change très factuellement dans le tableau. Tout simplement parce que le nombre d'agents a augmenté parmi les adjoints techniques de première classe. Voilà. Questions ? Commentaires ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Dénomination des voix. Donc, monsieur Leblanc, si vous pouvez projeter, on va quand même projeter une carte sur ces dénominations de voix. Donc, la commission voirie s'est réunie le début mai. C'est le 2 mai. Non. Alors, pourquoi ces dénominations de rue ? On s'est aperçu, pardon s'il vous plaît, on s'est aperçu qu'on avait des morceaux de voirie qui ne portaient pas de nom. Or, aujourd'hui, dans le cadre du très haut débit, on nous demande pour toutes les habitations une adresse précise. D'ailleurs, et donc quand il y a des maisons qui, je sais pas, le courrier arrive chez eux, mais il n'y a pas de nom de rue, il n'y a rien. Donc, je ne sais pas comment ça arrive, mais ça arrive. Bon, ceci dit, donc là, on va effectivement donner un nom à ces rues-là. L'adjoint à la voirie, entre autres, est aussi en train de faire un travail d'enverberie, parce qu'à cette occasion-là, on s'est rendu compte qu'on avait quand même quelques problèmes dans les numéros de rue. Alors l'an dernier, on a fait la rue de la Cendrière qui est passée en métrique. Là, typiquement, la route de Compiègne, par exemple, où il y a Poquelin et on va jusqu'au chemin de fer, là les numéros, gagner. C'est une catastrophe. Quoi. Donc on va reprendre tout ça tout en allant, parce que ça demande quand même un petit travail administratif. Et... Voilà, donc ça demande quand même un travail. Ceci dit, je reviens aux dénominations de rue.
C'est en accord avec les habitants de la rue ?
Non. Alors, qu'est-ce que tu appelles en accord ?
Est-ce que les gens qui habitent ces rues sans nom, c'est eux qui ont proposé d'avoir un nom de rue ?
Non, c'est la loi qui l'impose.
Je ne sais pas si je... Est-ce qu'ils non, c'est très débile. Parler pour te dire on voudra avoir un nom de rue ?
Michel, Michel, Michel a expliqué pourquoi, c'est par rapport au très haut débit.
Oui, mais est-ce que les gens...
Mais non, mais ils n'ont pas le choix, si tu veux.
Ils n'ont pas le choix, lui.
Non, mais sur le nom, vas-y.
On est obligé de donner un nom aux rues, aux voies qui sont là, on est obligé de commander des bâtiments, d'avoir un nom, de manière à ce que tous les services soient serrés. Un nom et un numéro. Alors, comme ça, voilà.
Mais
des fois
que les gens auraient eu.
Non, mais.
Bon,
oui, mais dans cette rue-là, ça peut arriver, ce sont des enseignants, ils restent un peu, ils s'en vont.
Alors, il y a une rue, je crois que la rue du manoir Saint-Germain, tu avais demandé un peu aux habitants ce qu'ils en pensaient,
ouais,
et ça tournait autour de ça.
Bah, les deux, trois habitants qui sont dans la rue du manoir
Ensuite,
Saint-Germain veulent rester rue du manoir Saint-Germain, c'est plus simple, de toute façon, pour tout le monde.
Bon, rue du manoir Saint-Germain, bon, dans les deux noms de rue qui sont proposés, il y a donc sur la rue que vous voyez là, qui mène effectivement à ce qu'on appelle le manoir Saint-Germain, il y a cette rue-là, donc on propose de l'appeler rue du manoir Saint-Germain.
Mais cette
rue-là,
apparemment, non,
non,
c'est
même
plus
Actuellement, les habitants de cette rue-là, ils mettent leur nom. Actuellement, les gens, ils mettent leur nom, le manoir Saint-Germain, c'est tout. Voilà, il n'y a pas de numéro, il n'y a rien. C'est comme ça. Donc là, on va l'appeler pour la tête changer trop jour, rue du manoir Saint-Germain. Et on va refaire une numérotation métrique du fait qu'il y a
beaucoup de parcelles de construire.
L'autre rue, donc c'est la petite rue. On parlait tout à l'heure avec Monsieur Lamy des rues. Alors mais Monsieur Leblanc va pouvoir le montrer. Voilà, c'est la rue qui part du feu. Voilà, et qui va là. Donc en termes d'adresse sur cette rue-là, on va y rattacher, on va tout y rattacher. On va y rattacher le collège, la halle des sports. On va y rattacher
Dagobert,
évidemment. Et puis les maisons des enseignants.
D'accord.
C'est un peu ça l'idée.
Oui, c'est la rue dont tu
Ceci
parles.
Dit, la commission propose donc de donner.
Ça fera partie de la rue. La rue sera
Donc la commission propose au conseil municipal de donner à cette rue le nom d'Edgar Floury, qui est votre père, monsieur Floury. Qui a été maire de Verberie, donc j'espère que je ne vais pas dire de bêtises, de 1975 à 1983, moi je n'ai pas connu M. Edgar Floury, je suis arrivé après, mais il était enseignant d'une part,
directeur
il était directeur des écoles,
directeur
je crois.
Directeur d'école.
Il est rentré au conseil municipal en 1950.
Allez-y, M. Floury.
Et donc, il a arrêté de 1950 à
83.
Donc, il avait fait 33 ans, en 4 juin, et ensuite maire. Et Jean-Jacques Cournil a été conseiller municipal
avec M. Floury.
Oui.
J'ai commencé avec M. Floury.
Lors d'un mandat. Et bon, c'est mis difficile. Hein.
C'est jamais facile.
C'est délicat de parler de mon père. Hein. Bon, parce que bon, le collège, évidemment, il s'était battu pour que le collège soit installé à Verberie et non pas à Béthisy, parce qu'à l'époque, Béthisy était plus grand en population que Verberie. Et avec tous les parents d'élèves, enfin, ils s'étaient battus pour que le collège arrive soit à Verberie. Et c'est cette époque aussi où le conseil municipal a fait l'acquisition du château.
Oui,
tout à fait.
C'est lors de. C'est comme ça. Bon, je n'en dirai pas plus, ce que je dis, c'est. Mais je suis très touché de cette dénomination. Et merci si ça se fait, de cet hommage. Hein, c'est tout beau. Je ne prendrai pas part au débat.
Moi, je vais ajouter simplement un mot. Moi, je n'ai pas connu, comme j'ai dit tout à l'heure, Monsieur Edgar Fleury, mais je sais que c'est quelqu'un qui a été particulièrement apprécié dans la commune. Voilà. Je ne peux pas en dire plus.
Exactement.
Bien. Donc il a tiré les oreilles d'un certain nombre de personnes qui sont autour de cette table.
Non, pas moi, j'étais pas là. Mais il a tiré les oreilles de plus pour moi.
Bon. Tout propre.
Non, pas six.
Je vous propose de revenir au vote. Sur cette proposition-là, est-ce qu'il y a encore des questions déjà? Des commentaires? Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé à l'unanimité. Voilà. Bon, on fera évidemment, je ne sais pas comment, mais on va faire une petite cérémonie. Alors, je ne sais pas s'il faut qu'on attende que la voirie nous revienne, parce qu'on vient quand même de donner un nom à une voirie qui ne nous appartient pas, puisqu'elle est au conseil
à la CCBA.
Mais bon, on devrait pouvoir s'arranger avec ça. Voilà, c'était le dernier point de l'ordre du jour. J'avais une question diverse qui m'a...
Vous voulez juste poser une question, les gars, vous êtes en train de poser des questions, mais enfin, c'est... Tu parlais tout à l'heure que les rues qui avaient des numéros un peu compliqués, vous vouliez remettre ça au linéaire.
Oui. Michel, tu peux dire où tu fais partie de l'équipe, parce que quand tu dis vous, ça me choque. Tu peux dire on a décidé, parce que tu fais partie de l'équipe.
Bon, bon. Voilà, bon, c'est pas le but de ma question. L'histoire de mettre les rues en linéaire, on sait que ça pose un tas de problèmes administratifs. Tout ce qui est changement d'adresse.
Ah oui,
on sait. Ça ne se fait pas comme ça avec les organismes qu'on a actuellement en France. C'est la croix et la bannière pour changer une adresse. Est-ce que les gens déjà sont d'accord pour changer leur adresse?
Attends, je vais donner un complément. On ne va pas refaire toutes les rues.
Non, mais les rues que qu'on va refaire.
Typiquement, rue de la Cendrière, on en était aux 3 quintés. Enfin, les gens, ils cherchaient leur courrier partout dans la rue.
Moi je vais vous donner une rue où c'est pas plus compliqué. Vous prenez la rue des Remparts, vous démarrez au 10, vous retrouvez le 10 bis 200 mètres plus loin, le 10 terre 20 mètres après le 10, et puis ainsi de suite. Donc, moi je m'étais renseigné à l'époque, c'était pas le type Fleury qui était maire, j'ai dit qu'est-ce qu'on peut faire? On a dit, on le fait en linéaire, mais il faut que les gens soient d'accord. C'est logique. Et quand on interroge les gens ne veulent pas s'embêter parce qu'ils disent que ça nous fait trop de problèmes de papier. Voilà, c'est pour ça que je pose la question.
Alors,
que les gens étaient d'accord.
Alors,
je vais rajouter un complément. Je reconnais que nous ne l'avons pas fait, mais qu'il faut le faire.
Et oui, il faut le faire.
Il faut le faire parce que, voilà, j'en parle en plus, que lorsqu'on fait des visites, des médecins cherchent une adresse. C'est quand même plus facile quand vous allez au numéro 1024.
Si tu fais venir le
et autrement, vous cherchez les adresses.
Les secours.
Les secours, oui, c'est ça.
Mais à un moment, il faut le faire. Il faut le faire. D'abord, parce que dans la rue des Moulins, il y a aussi un gros problème.
Dans la rue des
Moulins, sur le linéaire, il y a plusieurs adresses qui sont les mêmes.
Sur la rue des Moulins, vous avez des numéros. Par exemple, du 25, vous passez au 30, et puis vous avez 3-4 numéros dans les séries des 30, et après ça, vous repassez au 27.
Très juste. Très
juste. C'est complètement aberrant.
Au niveau des
passeports, au niveau des. Rue de la Cendrière, on n'a pas eu de retour trop négatif sur ce qui a été fait. Non. Les gens.
Ça fait joli.
On a pris en charge beaucoup de choses, et a priori, ça s'est bien passé.
L'expérience qu'on a rue de la Cendrière, bon, il y avait une forte demande d'une partie des habitants, pas forcément de tous, parce qu'il y en a quand même qui étaient très touchés par cette affaire-là. Bon, à la fin, la solidarité a fait quand même que tout le monde a dit « bon, faut le faire ».
Et ça, c'est très bien passé.
C'est vrai qu'il ne faut pas oublier de dire aux gens que c'est un vrai problème.
Ah oui, c'est moi, c'est ça.
Par contre, ce qu'on demande aux gens, comme on a fait dans la rue de la Cendrière, c'est de conserver, de mettre le nouveau numéro, le numéro métrique, mais de conserver au moins pendant un an à côté l'ancien numéro, de manière à ce que facteur où les gens puissent arriver à intégrer la nouvelle numérotation. Ce qui a été fait et il n'y a pas eu vraiment de retour.
On a fait une erreur de débutant qui nous a un peu fâché avec la poste. Mais bon. Parce qu'en fait, on a fait du linéaire pur et on ne s'est pas posé de questions de père et d'impair. En fait, pour la poste, il faut faire du linéaire, mais il faut quand même conserver côté pair, côté impair. On ne recommencera pas.
Bah, c'est en faisant des bêtises qu'on apprend.
Moi, je peux vous dire que depuis un an seulement, le Crédit Agricole, moi je suis un place du Général de Gaulle, le Crédit Agricole est un place du marché.
C'était l'impôt.
Il y a qu'un an que j'ai réussi à dire au Crédit Agricole, écoutez, arrêtez.
Et c'est l'ancienne place du marché.
Bah oui, c'est l'ancienne place du marché. Alors comment ils sont arrivés au 1 alors que le 1 était là, je ne sais pas. Mais ils étaient un place du marché et moi un place du Général de Gaulle. Bon, alors évidemment, c'est le facteur.
Bon, ça va être intéressant s'ils livrent des fonds.
Ils n'ont plus de fonds, c'est ça.
La brique, c'est ça.
Les fonds ne se sont jamais trompés, monsieur.
La brique, c'est la brique.
Les fonds.
Bien, je vous propose de passer au point suivant. J'ai donc eu une question qui m'a été posée par madame Lisiane Grosbon. Bon, qui... Voilà, donc vous lui transmettrez la réponse ou elle la lira. La question était la suivante, je vais la lire comme je pensais qu'elle pourrait la lire. Est-il vrai que la municipalité envisage de demander un loyer au prêtre de la commune? Point d'interrogation. Alors, la réponse à la question est non. Par contre, c'est toujours comme ça. En revanche, des démarches ont été entreprises avec le diocèse pour conclure un bail d'habitation, car nous sommes actuellement dans l'illégalité. Ces démarches ont d'ailleurs été initiées début 2014, avant les élections, et avaient fait l'objet de premiers échanges avec l'économe du diocèse. En 1905, une loi sur la séparation des églises et de l'État a été votée. Dès lors, la mise à disposition gracieuse ou pour un loyer modique d'un logement pour un ministre du culte, est analysé par le juge comme une subvention déguisée au culte et donc illégale. Et il y a des avis du Conseil d'État sur le sujet. Nous avons tenu une réunion en février 2016 avec le vicaire général, l'économe et M. l'abbé. Il apparaît que le diocèse n'est pas opposé à la signature d'un bail de location et au versement d'un loyer. Il y aura naturellement des discussions sur son montant. D'un autre point de vue, dès lors que nous logeons M. l'abbé, nous avons le devoir de le loger de manière décente. C'est d'ailleurs le cas de tous ceux qu'on a amenés à loger. Il n'y a pas eu de travaux d'ampleur au presbytère depuis très longtemps. Aujourd'hui, celui-ci nécessite notamment des travaux de mise aux normes, électricité, assainissement, etc., très importants, qu'il va falloir financer. Il n'est pas aberrant dans ce contexte que le locataire, c'est-à-dire le diocèse, y participe, comme d'ailleurs, quand on loue une maison, quelque part, une partie de l'argent qu'on donne au propriétaire sert à entretenir la maison. Donc voilà où on en est sur ce sujet-là. Et j'ajoute que si on n'avait pas abordé le sujet, je ne sais pas comment ce sujet s'est propagé, mais enfin... Si on n'avait pas abordé aujourd'hui ce sujet, c'est simplement parce qu'il n'était pas mûr. Et d'ailleurs, on continue à travailler sur l'affaire. Je ne vous cache pas que ce n'est pas la première des urgences auxquelles on fait face. Mais on continue à avancer sur ce dossier parce qu'on est dans l'illégalité. Et puis, vous savez aujourd'hui que tous ces sujets-là sont de plus en plus sensibles. Donc, il faut être vigilant. Voilà le cadre dans lequel on est. Mais bien sûr, on n'a absolument rien contre M. l'abbé. Et au contraire, on va sans doute, on regarde en ce moment, l'adjoint aux travaux regarde ce que ça pourrait nous coûter, et ça pourrait nous coûter très cher. Hein? Donc voilà un petit peu où on en est sur ces affaires-là.
Est-ce qu'il y a des compléments, des questions? Je vous en prie.
Par rapport au diocèse, la salle, l'ancienne salle du catéchisme, appartient toujours au diocèse.
Oui.
Et une enclave à l'intérieur de des propriétés communales. Il avait été entamé des discussions avec le diocèse pour leur demander s'il voulait bien nous céder, puisque c'était une enclave et que, bon, aujourd'hui, elle n'est pas en mesure d'accueillir dans des conditions de sécurité des personnes. Et bon, ça a été commencé, mais ça n'a pas été terminé. La seule réponse que le vicaire général avait donnée, il m'avait dit, eh ben, écoutez, on fera plutôt un échange, par exemple, le presbytère contre la prêche. Je lui ai dit, oui, moi, je veux bien, c'est un œuf contre un bœuf.
Très bien, ça. C'est pas fou, hein.
Je sais que vous avez demandé des affaires tout le temps, mais là, je pense que ça ne pourra pas aller. Et voilà, la discussion s'est arrêtée là. Et peut-être qu'un jour, il faudra la reprendre.
Alors, j'ai pas forcément parlé de tous les sujets qui ont été abordés en février 2016, parce que je répondais à une question précise. Ce sujet-là a été abordé. Cette fois-ci, il voudrait faire un échange, effectivement, avec un morceau du terrain qui est à côté du presbytère. Quand on a regardé, honnêtement, on n'est pas trop enthousiaste. Parce que on a le sentiment qu'on se retrouve. Voilà, c'est un coin qui. En plus, ce coin-là, c'est un coin qui est très joli. Enfin, à côté du presbytère, un peu plus haut. En allant vers le fond de l'église, là. Hein. C'est un coin très joli. Qu'est-ce qu'on va y construire? Qualité. En plus, là, ça va être la croix et la bannière, parce que là, l'architecte des bâtiments de France va
bah,
tout verrouiller. Hein.
Ça va dévaloriser le bien actuel. Hein.
Donc, voilà, on n'est pas... Donc, on va reprendre contact, on va avancer. Bon.
Ils ont peut-être...
Voilà. Donc c'était l'autre sujet qui a été abordé.
C'est juste comme ça, ça ne changera rien au décor, non ?
Si ils voulaient construire un bâtiment.
Si ils veulent ça, c'est parce qu'ils ont un projet.
Non, ils veulent y construire un bâtiment, m'ont-ils dit, pour le catéchisme, la catéchisme, voilà. Mais bon.
Actuellement, il a lieu où le catéchisme ? Ou à l'intérieur de l'église ?
Je ne sais pas, en fait.
En fait, c'est un don.
Dans le petit bâtiment.
C'est un don sur de la croix. Je n'en fais pas, d'ailleurs, puisque le terrain qui appartenait à Sceaux de la Croix, et avant de refaire la mairie ici, il avait été racheté à Sceaux de la Croix. Comme il y avait la maison avec le catéchisme, Sceaux de la Croix a dit, oh non, mais moi, la salle du caté, j'en fais don au diocèse. C'est comme ça que le diocèse a été devenu propriétaire de la salle du catéchisme, mais assez récemment, peut-être une quinzaine d'années.
C'est récent.
Oui, c'est vraiment récent.
Voilà, on réfléchit, on regarde combien nous coûteraient les travaux dans le presbytère, parce que c'est un bien communal, il faut aussi que... Si j'en parle, ça fait partie de, des propriétés privées de la commune.
Personne n'y va. Les enfants n'y vont pas, personne n'y va.
Je
ne
sais pas ce que j'en ai.
Non, elle est encore. Elle tombe pas en ruine pour le moment.
Je n'avais pas songé le faire jusqu'à présent. Mais puis en plus, il y a pas de il y a un péril à la limite si on va dedans, parce qu'il n'y a plus rien aux normes. Hein. Mais à l'extérieur, il n'y a pas de péril.
Il n'y a pas de menace.
Ça appartient au diocèse.
Voilà la position actuelle. Bon. Voilà, donc c'était. Bon, alors donc j'ai donné la réponse à Madame Grosbon. Elle le lira par écrit, vous lui transmettrez. Quelques petites infos. Donc dans les infos, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé ici, le syndicat d'électricité 60 avait un projet d'extension de bornes électriques sur les communes
et voulait en placer une à Verberie. Est-ce que je vous en ai déjà parlé?
Oui, affirmative.
Voilà. Hein.
Parce que ce n'était pas utile pour l'instant.
Bon, voilà. Deuxième info, là je laisserai après la parole à l'adjoint aux affaires scolaires. Donc il faut que vous sachiez que sous la houlette de Madame Barbe, qui a beaucoup travaillé sur le sujet, le collège de Verberie est l'un des deux collèges à être collège numérique dans l'Oise à la rentrée 2016, avec tout un équipement fourni par l'État. Voilà, donc c'était un gros travail des enseignants et de l'équipe éducative du collège. Mais on a été plus loin. Et là, c'est le seul collège de l'Oise qui a été plus loin, parce que les temps étaient extrêmement compressés. On a été prévenu, je ne sais plus, c'était un lundi, il fallait qu'on prenne une décision pour deux jours après, du fait qu'on nous proposait, en fait, dans le cadre de la réforme du collège, que les classes de CM1 et de CM2 soient associées à ces classes, à ce collège numérique. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, dans leur réforme, ils ont ce qu'ils appellent le cycle 3, qui regroupe CM1, CM2, 6e. Ils essaient en fait de faire une espèce de continuum entre la primaire et le collège. Et donc à ce titre-là, dans les deux jours, je vous dis, ça s'est joué, on a fait une réunion catastrophe avec les autres maires de la CCBA. On devait dire si on était d'accord pour y aller ou pas, sachant qu'il fallait équiper les écoles de CM1 et de CM2 de classes mobiles, ce pourquoi on a voté d'ailleurs. Au moment du budget, et voilà, il fallait donner notre réponse. Est-ce qu'on voulait faire partie de toute cette expérimentation, sachant qu'il y avait quand même des subventions à 50%? Donc on a décidé d'y aller, on l'avait déjà expliqué, mais tout ça a vraiment pris forme là, c'est complètement définitif là d'ailleurs. Peut-être que Laurent va en parler après. C'est complètement définitif et au-delà, c'est pas simplement que du matériel. Là, il y a un vrai projet. Ça veut dire que les enseignants du collège et les enseignants de CM1, CM2 vont travailler ensemble. Il va y avoir un comité de pilotage avec des enseignants, mais aussi probablement avec des élus. C'est une expérimentation unique dans l'Oise. Tout ça parce qu'il a fallu aller très vite, donc il faut quand même que vous sachiez qu'on a... Voilà, toutes les communes, là, on s'est rapidement rassemblés et tout le monde a dit qu'il était d'accord pour y aller après un ou deux jours de réflexion. Donc ça a permis d'aboutir et c'est le seul collège de l'Oise qui a pu aboutir à cette situation. Si tu veux dire quelques mots complémentaires, Laurent ?
Non, tu as déjà bien résumé la situation. Donc on a eu la dernière réunion, on va dire, donc juste avant le conseil municipal, qui était à 18h à la mairie de Béthisy, avec donc les représentants des communes donc de la CCBA. Il faut savoir que les maires se sont félicités d'ailleurs par rapport à ce succès, parce que c'est la seule communauté de communes, on va dire, ou les seules communes dans l'Oise qui se sont entendues sur ce programme-là avec un collège. Donc on est un peu test, on va dire. Alors c'est bien parce qu'on retrouve certains avantages, pilote, oui. Je pense que c'est vraiment un vrai, vrai plus pour nos enfants. Au-delà du matériel, je vais vous en dire deux mots après, mais il y a vraiment un grand projet et une grande synergie qui va se faire entre le 6e et les CM1 et les CM2. Il y en avait déjà, mais je pense qu'on va passer un cap aujourd'hui. Donc ce sera par exemple un travail en commun entre les professeurs donc, du collège, du secondaire et du primaire. Et il y aura donc via des tablettes, puisque c'est des tablettes, le choix s'est orienté vers des tablettes. Il y aura un vrai lien entre les travaux qui pourront commencer au CM1, mais être suivis au CM2, puis au 6e. Donc un échange, il y a donc en effet un groupe de pilotage qui sera réuni régulièrement avec les enseignants donc du primaire et du secondaire au niveau du collège. Et puis il y a aussi un lien entre les familles qui sera plus fort, puisque même s'il faudra s'assurer que tout le monde ait bien un accès Internet chez soi en tout cas, mais les enfants par exemple le soir et le week-end pourront aller faire voir leurs travaux aux parents. Donc il y aura un code d'accès, il y a tout un processus qui sera mis en place, et donc ils pourront aller faire voir un travail en commun, continuer un travail qu'ils ont commencé à l'école et puis finir à la maison. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses comme ça. Au-delà du matériel, il y a aussi un budget annuel qui est mis en place par l'éducation nationale de 500 euros pour acheter, donc là c'est pour les enseignants, hein, il est mis en place pour les enseignants, pour acheter notamment des applications. Il y a des applications qui sont payantes, donc ça va de 5 à 30, 40 euros.
500 euros par école.
500 euros par école, pardon, qui sera géré par le collège, et puis les enseignants du primaire, s'ils veulent acheter quelque chose, il faudra qu'ils passent par le collège, enfin voilà, c'est le dispositif du détail technique, mais franchement, honnêtement, c'est un vrai plus. On peut vraiment remercier Mme Bard, qui a vraiment été porteur du projet, et son équipe pédagogique,
et son équipe, oui.
Parce qu'ils sont vraiment très engagés là-dedans. Honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus passer à côté de ça. Moi, je suis dans le monde bancaire, je ne vais pas parler de moi, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est vraiment... c'est incontournable, quoi. Le numérique, c'est... Après, on est pour, on est contre, hein. Il y a des avantages et des inconvénients, mais on ne peut plus faire sans. C'est vraiment, c'est vraiment incontournable. Et pour nos gamins, je pense que c'est vraiment important. Donc voilà, c'était sur le fonctionnement. Sur le matériel, donc évidemment, comme l'a dit Michel, même si les maires ont dû se décider rapidement sur l'accord de principe, après, il y a quand même eu plusieurs réunions de travail sur lesquelles donc, Michel a assisté. Puis après, il m'a passé le relais sur le technique, on va dire, entre guillemets. Les enseignants ont quand même été interrogés via l'inspection. Hein. Il y a eu plusieurs réunions. C'est eux qui ont fait un peu le choix. Ils ont donné des orientations. C'est quand même eux qui vont pratiquer ce matériel-là au quotidien. Hein. Donc, c'était important d'avoir de les écouter, de les entendre, en tout cas. Et c'est la solution qui a été retenue donc, ce soir. Enfin, sous couvert de Michel, si tu signes, mais en tout cas, donc voilà, on s'oriente sous un système donc Android, donc il y aura, donc il y a deux classes mobiles, hein. Là, ce que je vais vous donner, le descriptif, c'est pour une classe mobile, donc il y a bien une mallette de rangement, il y aura 12 tablettes Android, donc ça fait une pour deux enfants, à peu près, un poste de pilotage, une solution de supervision. Alors, le poste de pilotage, c'est donc ce qu'on appelle une gestion de flotte, c'est-à-dire que par exemple, il y aura un ordinateur qui sera maître, qui sera donc à l'enseignant. Il va vouloir mettre des applications, donc il le met une fois sur son PC central, et puis ensuite, il branche les 12 tablettes, et les 12 tablettes vont recevoir l'application. Et puis, il y aura aussi donc, l'autre, un poste de pilotage et de supervision. Donc l'autre, c'est ce qu'on appelle une gestion de classe, donc où là, il va pouvoir, par exemple, il va projeter donc, une image, et puis il va vouloir s'arrêter à un moment donné précis. Il fait pause, par exemple, sur des photos, et l'ensemble des tablettes s'arrête en même temps. Voilà, c'est un peu pour vous donner la tendance. Une solution de gestion d'application, une prestation, évidemment, de mise en service, etc., etc. Je vous passe les détails. En tout cas, le prix... sera donc pour la... Alors, on attend un dernier devis, parce qu'il y a eu juste des réajustements ce soir, mais il sera de l'ordre de 7000 euros hors taxe pour une classe mobile, en sachant qu'on a le droit à 50% de subvention, donc ce qui nous fera 3500 pour une classe. On aura une classe gratuite. Une classe achetée, une classe gratuite.
Et juste sur un point, donc ce qu'on a évoqué tout à l'heure, que les enfants puissent accéder depuis chez eux aux travaux, etc., ça veut dire qu'il y a des espaces de cloud qui sont créés, et typiquement c'est ce qu'ils appellent des espaces numériques de travail, et ça c'est le conseil départemental qui, gracieusement, parce qu'il paraît que ça vaut assez cher, le conseil départemental qui va nous permettre, dans le cadre de cette expérimentation, de profiter finalement de ce que paie le conseil départemental. Donc, il y aura le même espace numérique de travail, justement, pour les CM1, CM2 et 6e. Voilà. Bon, c'était un peu technique, je suis désolé, mais voilà, ça fait du bien, quand même, c'est intéressant de le savoir, quand même. Donc là, le matériel vient d'être choisi. On avance. Point suivant. Bah, donc, la rue Gustave Bouffé est terminée. Moi, je trouve que c'est une réussite. Alors, il y a peut-être des avis différents. Je sais qu'il y a eu un travail de la commission voirie, notamment au moment où j'étais pas là, qui a été remarquable, notamment sur la décision de continuer l'enrouber un peu plus loin, d'avoir je crois que monsieur Lamy, vous aviez proposé des choses dans ce cadre-là qui ont été retenues, qui s'avèrent efficaces. D'ailleurs, hier, quand il est tombé la drache là, j'ai voulu justement aller voir sur place. J'ai été voir. Je suis rentré ici, je n'avais plus un poil de sec. Hein. Mais il y avait l'avaloir n'était pas du tout engorgé. Toute l'eau était dans le caniveau. Il n'y avait pas d'eau sur la route. Enfin, ça coulait normalement. Il n'y avait pas d'accumulation. Donc ça se passait très très bien de ce point de vue-là. Voilà ce que
oui, parce que hier, c'était quand même impressionnant.
Ah oui, hier, c'était impressionnant, là, quand il est tombé l'autre.
Ah oui, c'était une bonne.
Oui, j'y suis passé, j'étais là. J'ai profité du coup.
Le marquage au sol, c'est
3 minutes de
oui, alors, on a fait un. Pardon, vas-y, René.
Ouais, on a fait un marquage provisoire, c'est pour voir un peu la réaction, comment ça va se passer. Bon, on ne peut pas faire beaucoup plus de place que ce qu'on a. Je crois qu'on avait vu ensemble. Et on a regardé à nouveau avec M. Leblanc et on ne peut pas en faire davantage. Donc on va à ces places-là. Et après, on va être obligé de positionner des potelets ou autres pour pouvoir bloquer, éviter le stationnement à certains endroits, parce qu'on n'a pas le choix. Là déjà, je suis repassé hier. Ce matin, il stationne encore maintenant.
Il faudrait expliquer qu'effectivement, normalement, la voiture est censée se garer entre les lignes blanches et
pour exemple, jeudi, je suis passé dans la rue. Il y a 7 places qui sont environ 7 ou 8 places parce qu'on n'a pas fait des places limitées, on a fait
des bandes.
Et il y avait une seule voiture stationnée dans les rues, elle était hors des tracés. Elle était toute seule. Elle était hors des tracés.
Aujourd'hui encore, il y avait une voiture, mais on ne voit pas.
Ce
vous allez faire des petits potelets peut-être, non? C'est plus joli.
Ah non, ça, les bas de caisse, c'est terrible.
Ah bon? Ah, pour les bas de caisse.
Il faut mettre un haut,
oui.
Mais rien du tout.
Ah, pour les bas.
On a déjà eu
ma pièce
de
frise.
On avait
ce matin déjà des voitures stationnées sur le début de la rue Gustave Bouffet, juste à l'angle, qui stationnait avant, qui bloque toute la circulation.
Par contre. Si, on a un policier municipal. Je vous. Si. Mais il travaille aussi, hein, mais bon.
Mais là, comment, je pense qu'on va être obligé quand même pour le trouver. Bon, peut-être pas forcément le type de potelette qu'on a là actuellement. Bon, je sais pas, il existe peut-être autre chose comme matériel.
Il faut que ça soit joli, en noir, pour que ça plaise à le dire.
Voilà.
Oui. Du noir.
On va aller un peu plus loin sur... Donc, ce que m'a expliqué...
Non.
Voilà.
J'ai eu peur aussi.
Le marquage définitif, c'est prévu pour quand, Monsieur Leblanc?
Première semaine de juin.
L'idée, c'était justement de faire un marquage temporaire, de voir un peu comment les gens se comportaient. Et après, on va faire le marquage définitif. En plus, techniquement, je crois qu'on ne peut pas faire le marquage tout de suite parce qu'il y a les histoires de remontée d'huile. Il faut attendre ces remontées d'huile. Quand on dit remontée d'huile, c'est un petit mélange. Comme c'est du bitume, voilà, il y a un peu d'huile, un peu d'eau.
C'est des schistes bitumeux.
Mais c'est pas. Donc, ça, c'était sur la rue Gustave Bouffet. Si on continue rue de la République, donc la rue de la République, hier. On a fait le choix de... on a voté pour que la présidente puisse signer le marché pour l'assainissement de la rue de la République. Donc la société est choisie.
Oui.
Voilà.
Nous avons choisi la société Baricor, qui, au niveau de la valeur technique, elle a été classée sur les critères qu'on avait définis. Elle a été classée première. C'est une économie de entre 40 et 50 000 euros par rapport à l'offre concurrente pour une valeur technique équivalente. Donc, ça a été
fait,
le choix s'est fait sur le prix.
Ils étaient premiers en technique, premiers en prix.
Voilà.
Donc là,
on a... Et les travaux, donc le temps que le marché soit transmis à la préfecture, les travaux devraient débuter début juin.
D'accord.
Voilà. Les subventions sont en cours, on n'a pas encore d'accord de subvention, mais les travaux vont commencer, voilà.
Fin juin. Ah bon.
Excusez-moi.
J'avais peur.
Non, c'est fin juillet.
Et sur l'autre aspect, les autres appels d'offres viennent d'être publiés sur le Parisien. Ouais. Sur le Parisien. Et ils ont jusqu'au 16 juin pour répondre. Au 17 juin midi, pardon. Et on se voit l'ouverture des plis le 17 après-midi avec quelques personnes. Et ensuite, surtout, c'est l'analyse. Pour l'analyse, on fera venir la commission voirie et la commission appel d'offres. pour l'analyse qui aura lieu 8 jours plus tard, c'est-à-dire le 23 juin à 9h30. Donc ceux qui font partie de la commission voirie, voilà, il y aura bien sûr une convocation qui sera envoyée, mais vous pouvez déjà noter la date et l'heure pour l'analyse des réponses qui seront faites. Sachant que la personne qui œuvre là-dedans, donc assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est M. Brard. C'est bien l'assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est maître d'œuvre. Non, pardon, maître d'œuvre, M. Brard, qui va procéder à l'analyse. Voilà, et ce sera parti.
Pour revenir donc sur l'assainissement, il y a encore deux autres opérations qui sont lancées, pour lesquelles donc les consultations ont été faites, des offres reçues. Ce sera donc des chemisages rue René Firmin sur 2 traversées. Donc là, c'est pareil, j'ai choisi l'entreprise récemment. Les travaux donc pourront commencer quand on le souhaitera, puisque le département devrait intervenir sur cette route cet été.
Alors cet été, j'ai déjà dû en parler ici, hein, mais le département veut refaire tout le revêtement de la D932A. Donc aujourd'hui, il va refaire de l'entrée de Verberie jusqu'au Suki, et ensuite de la sortie de Verberie, toute la côte de Verberie. Et entre les deux, si ça n'avait tenu qu'au département, lui, il refaisait tout. C'est nous qui avons en fait qui avons demandé un an de délai, parce que là, par contre, il faut qu'on fasse des travaux d'assainissement, justement, importants. Et il faut nécessairement qu'on les fasse avant de poser la bande de roulement.
Et puis pour le traitement, donc sur les postes Moulin et Alexis Carrel, les parcelles sont définitivement acquises. Ça a été long, mais c'est signé. Et les études géotechniques sont déjà ont été lancées. Et donc on a reçu les offres et seront examinées prochainement. Et ensuite. On lancera la procédure de travaux également pour faire des installations de traitement chimique qui s'imposent à ces deux endroits le plus tôt possible. Voilà. Donc cette année 2016 aurait été une année quand même très lourde en termes de travaux, parce que nous souhaitons profiter du fait que nous avons encore... en tant que CIVOM, une grande autonomie pour le choix de compte tenu du programme très important qui est
de l'urgence,
notamment
des travaux
sur notre commune et de l'urgence. Donc là, on est vraiment lancé sur des procédures de marché et de réalisation de travaux jusqu'à la fin de l'année 2016. Et ensuite, il y aura des procédures qui 2017. Seront actées en 2016, mais pour des travaux en 2017, notamment rue de Paris, rue Juliette Adam.
Oui, quel était le problème
rue
Alexis Carrel?
Alors, rue Alexis Carrel est au poste Moulin.
En bas
c'est, oui, c'est tout à fait en bas.
Une pompe qui est en bas
Oui, vous savez.
À côté de chez Monsieur Francard.
À côté de chez Monsieur Francard, donc ça c'est le poste Moulin. Et sur ce poste-là, il y a au moins plus d'une dizaine d'années que la Lyonnaise des Eaux signale la présence de H2S. Qui est un gaz, alors j'arrive jamais à le dire exactement.
Hydrosulfure d'hydrogène, donc qui attaque d'une part les canalisations et qui en plus, pour les gens qui font des interventions, peut être mortel.
Peut-être mortel, donc du coup, il fallait qu'on acquière les parcelles nécessaires à ces installations. Il y aura donc un traitement par chlorure ferrique en continu, enfin programmé évidemment de façon... autonome, de manière à injecter la quantité de chlorure ferrique requise pour traiter ce gaz et bien sûr maintenir en bon état ces équipements. Donc là, c'était vraiment une urgence. Enfin, en ce qui me concerne, c'était vraiment la première des urgences parce que il y a des grands enjeux en termes de sécurité.
Dernier point sur la rue de la République, quand même, information, le 7 juin, il y a une réunion qui se tient ici avec les commerçants pour justement essayer de leur faciliter la vie, ou du moins de leur faciliter la perte de chiffre d'affaires qui peuvent avoir lieu pendant les travaux. Seront présents ici le directeur régional du RSI. Ouais. Le directeur départemental
régional de l'URSSAF
et Madame Coulonja de la DGFiP, qui est la directrice départementale. Ils viennent tous les trois pour voir comment, justement, ils peuvent apporter une aide aux commerçants. Donc, c'est une réunion, c'est le 7 juin à 14h. Voilà. Donc, si certains d'entre vous veulent être présents, enfin, bon, c'est surtout les commerçants que ça concerne, évidemment. Hein. Voilà, donc on aura vraiment, je pense là, fait quand même pas mal de choses pour que, comme on s'attaque à la rue commerçante, ils aient un maximum d'aide et d'accompagnement. Voilà, c'était le dernier point que je voulais aborder. Alors oui, Odile prend la parole.
Alors ce week-end, il y a la fête du jeu à la bibliothèque. Vous êtes tous invités à venir. C'est convivial, c'est familial. Vous pouvez venir avec vos enfants, vos petits-enfants. Il y aura des jeux de plateau, des jeux, un jeu de hasard qui sera un loto, mais un loto sans prix pour le plaisir de jouer. Des jeux anciens en bois. Il y aura 7 jeux anciens en bois cette année. Et puis de la pêche au canard, du chamboultou, des jeux plus traditionnels.
Et un professeur du collège qui vient avec des échiquiers.
Et un professeur du collège, bien. Ça c'est une nouveauté, qui va venir avec des échiquiers un peu géants.
Ah, c'est très bien.
Et également présence du comité de jumelage qui va œuvrer avec des jeux en anglais. Des jeux de craie sur le goudron. Enfin voilà, il y en a pour toute l'après-midi de 14 à 18 heures. Et puis le mercredi 25, il y aura la chasse au trésor dans le parc du château qui est organisée pour l'anniversaire des 30 ans de la MDO. Cette chasse au trésor est organisée par la MDO, mais en partenariat avec la bibliothèque de Verberie.
MDO, tout le monde le sigle connaît, Médiathèque départementale de l'Oise.
Hein. De l'Oise. Voilà. Donc ça se passera dans le parc du château.
C'est les enfants.
Le thème... Le thème sera sur le conte Boucle d'or. Alors là encore, les enfants sont invités à venir avec les parents, les grands-parents. Et il y aura également présents les enfants de la MJC qui sont en CSH.
Et dimanche, le championnat de France de WAC.
Samedi et dimanche.
Championnat de France de WOC.
Championnat de France.
WOC.
WOC.
WOC. WOC.
WOC. WOC. WOC. Tu as envie de donner des cours d'anglais.
Je sais comment le dire. Mais bon, voilà. Mais c'est vraiment un niveau très élevé, donc c'est très intéressant.
Ah oui, oui, effectivement.
Après, oui, c'est ce week-end. Dès vendredi après-midi, les entraînements, et samedi dimanche.
Dernier,
très intéressant.
Dernier point, donc il y a deux jours, nous avons donc, ou hier même, non, c'était avant-hier, nous avons eu l'inauguration du rond-point Pierre Bataille avec la société Poquelin et Laurent Bataille qui est en ce moment le président-directeur général, je pense qu'il est toujours président-directeur général. Voilà, c'était un moment émouvant, puisque c'était leur père aussi. Hein. Et ce monsieur, c'est lui qui a quand même mis en place et qui a redressé aussi Poquelin au moment où ils ont eu des problèmes avec Poquelin Hydraulix. Voilà, c'était un moment d'émotion, puisque ce monsieur, c'est un entrepreneur. Moi, je trouve que c'est avoir en entrée de ville un rond-point avec le nom d'un entrepreneur. Voilà, pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un, c'est un nom noble. C'est des gens qui ont construit des choses.
Des bâtisseurs.
Et en plus, j'ajoute que dans cette entreprise, de mon point de vue, il règne une ambiance et une... comment dire ?
Un respect.
Un très bon...
une entente. Bonne ambiance.
C'est une entreprise familiale.
Voilà.
Et on sent respect. Cette notion de famille.
À l'échelon de toute l'entreprise. Voilà. Quand on les voit entre eux, ça se voit. C'est très bien. Et d'ailleurs, la sculpture que vous pouvez voir est le résultat d'un concours interne à l'entreprise.
D'accord.
C'est donc quelqu'un de Poquelin, qui vient des États-Unis d'ailleurs,
d'accord,
qui est français mais qui était aux États-Unis là, qui a gagné le concours et donc qui a vu son œuvre se réaliser sur ce rond-point.
L'œuvre est très jolie, effectivement, et très...
Voilà, ça conclut le conseil municipal. La séance est close.